le matin de la veille du Nouvel An au service du Seigneur. Fred Neville et moi, nous essayons de voir ensemble, de discuter de ce que nous allions faire. J'essayais de le convaincre de venir vous prêcher ici ce matin et de me laisser prêcher ce soir. Mais finalement, je me retrouve à prêcher ce matin et aussi ce soir. C'est qu'il sait bien vendre son affaire. Bon, avant que nous ayons, que nous débutions cette classe, je lui ai dit que nous aurions seulement une classe, vu que nous ne sommes pas très nombreux ici ce matin, alors nous aurons seulement une classe. Avant de procéder à cela, j'aimerais faire une petite annonce. Il y a des gens ici qui sont venus de New York pour séjourner avec nous. Je n'avais jamais rencontré ces gens auparavant, il me semble. Fred Neville a dit qu'il vient tout juste de parler de cela. On m'a dit hier soir que leur caravane avait pris feu et que leur caravane avait été détruite. Je suis allé voir ces gens, et ils avaient l'air d'être de bons chrétiens, de braves gens. Et ils sont assez pauvres, comme nous tous. Alors Frère Wood et deux ou trois d'entre nous, nous avions prévu nous réunir pour voir si nous ne pourrions pas leur acheter une nouvelle caravane. Et ils étaient très gentils, et ont dit que l'assurance à laquelle ils avaient souscrit, ils s'étaient retrouvés dans une situation difficile, et avaient dû résilier leur assurance. Toutefois, l'agent avait payé la prime d'assurance, et alors ils ont de nouveau leur assurance pour leur caravane. Elle sera probablement en mesure de remplacer la caravane. Ils le sauront lundi ou mardi, je pense, ou quelque chose du genre, ou mardi, je crois bien. Alors, nous voulons partager leur chagrin, faire tout ce que nous pouvons pour les aider, leur faire savoir que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ et que nous éprouvons de la sympathie les uns pour les autres. Et je pense que tous sont d'avis que nous puissions leur offrir un peu d'aide en ces temps difficiles. Ça sort un peu de l'ordinaire, je crois, car je n'ai jamais ramassé d'offrande de ma vie. Alors je vais laisser à Frère Neville le soin de le faire. Bon, je me défile, n'est-ce pas? Ça ne fait rien. Merci, Frère Ben. Quelqu'un, quoi que ce soit, rien qu'un petit quelque chose que vous avez, que vous pouvez leur offrir, je suis sûr que ce sera apprécié. Frère Neville, viens ici. Je ne sais pas comment faire. Fais comme tu le sens. Merci, Frère Branham. Et je prends plaisir à faire ce genre de choses, parce que c'est ce qui nous aide à être davantage spirituels et semblables à Christ. Les gens disent parfois, « Je voudrais que vous priez pour moi, pour que je sois un meilleur chrétien. » Eh bien, j'ai déjà prié pour vous, et maintenant, je vais vous montrer comment l'être. Amen. Voilà comment il faut faire. Ouvrir vos entrailles de miséricorde. Quant à Frère Elliot, je sais qu'il ne cherche pas à attirer la pitié à cause de son état, mais il est infirme, et il ne travaille pas. Alors ce matin, nous allons simplement ouvrir nos cœurs et aider ces gens. Les plateaux offrandes sont ici, je crois. Ici, oui. Père Céleste, ce matin, nous regardons à toi. Alors que nous recueillons ceci, nous considérons nos vies et constatons que tu nous as tous bénis et que tu nous as accordé tous ces biens matériels qui nous sont nécessaires pour notre bien et notre confort. Ce matin, nous te présentons ceci. Nous l'offrons comme un petit signe de la compassion que nous éprouvons. Grande est ta compassion, oui, mais Seigneur, nous serons reconnaissants si seulement nous pouvons avoir un peu de compassion, comme toi qui as fait preuve de tant de compassion à notre égard. Voici ces bien-aimés, ici parmi nous, ô Dieu, et nous prions ce matin que tu nous bénisses alors que nous ouvrons nos cœurs. Accepte-les, fais ce que tu jugeras bon de faire, par ton esprit, au nom de Jésus et à cause de lui. Amen. Amen. Je me disais que pendant qu'on faisait cela, ça m'aurait peut-être laissé un peu l'occasion de choisir de quoi parler ce matin. Quelque chose tiré de vieux sujets et de choses que j'avais notées sur un bout de papier. J'imagine que tout prédicateur fait cela. Comment s'appellent ces gens-là, ceux dont la caravane a brûlé? Elliot. Est-ce que frère et sœur Elliot, ainsi que leur fils, sont dans le bâtiment ce matin? Si oui, voudriez-vous vous lever pour dire quelque chose comme « Nous vous remercions pour... » aux gens? Bon, très bien. Voulez-vous dire un mot aux gens, frère Elliot ou sœur Elliot? Que Dieu vous bénisse, frère Elliot. C'est très bien. Merci. Que Dieu soit avec vous. Vous et sœur Elliot, ainsi que votre fils. Ces gens sont venus de New York. Je ne savais pas qu'ils étaient ici. Ils ont dit que j'avais déjà eu un entretien avec eux, ou bien que j'avais prié avec eux un jour, ou quelque chose comme ça. Je ne les connaissais pas. C'est seulement hier que j'ai fait leur connaissance, et j'ai vu qu'ils étaient de gentils chrétiens, de très bonnes personnes. Et ils habitaient New York, là, quelque part dans la vallée du fleuve Hudson. Et peut-être qu'après avoir écouté une bande ou quelque chose, ils ont cru le message, ont tout vendu et sont venus s'installer ici. Ils ont simplement consacré leur vie et leur temps à Christ. Et nous voulons que vous sachiez, frères et sœurs Elliot, que c'est notre petite façon d'exprimer que nous aussi, nous sommes de passage. Nous sommes pèlerins et étrangers en ce monde. Nous cherchons une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Et quand le malheur vous frappe, que vous vivez ces choses, que le diable essaie de vous chasser par la peur et de brûler tout ce que vous avez, sachez que nous sommes là, à 100% avec vous, pour vous soutenir, en faisant tout ce que nous pouvons pour vous aider à vous remettre sur pied. Levez-vous au nom du Seigneur Jésus et continuez à avancer. Ne vous découragez pas, non. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Alors nous savons que nous nous attendons à ce que ces choses arrivent. Nous savons aussi que nous regardons à notre Sauveur, qui est plus que vainqueur, et nous sommes en lui, lui qui nous a rachetés. Bon, la journée d'aujourd'hui est assez chargée. Et ce matin, je pensais enseigner une leçon d'école du dimanche pendant quelques instants. Faire, en quelque sorte, une classe d'école du dimanche ce matin. Et ce soir, à 19h30, je voudrais, si c'est la volonté de Dieu, apporter mon message de nouvel an. Comme dimanche soir passé, j'avais apporté mon message de Noël. Ce soir, j'apporterai mon message de Nouvel An à 19h30, si le Seigneur le veut. Frère Neville apportera son message de Nouvel An. Et je vois Frère Stricker ici, et Frère Collins, et d'autres ministres ici, et Frère Palmer, qui est ici avec nous de la Géorgie, et les autres ici. Ce sont des ministres. Vous les entendrez ce soir. Alors, j'ai appelé Frère Neville hier, par rapport à quelque chose qui avait touché mon cœur, étant donné que c'est le Nouvel An et que c'est aussi le premier dimanche, au lieu d'avoir un grand rassemblement, de crier à tue-tête et de nous comporter comme le fait le reste du monde, ce soir, nous prendrons la communion à minuit. Voyez, pour servir le Seigneur. Frère Neville était du même avis et a trouvé que c'était très bien. Et ce soir, si le Seigneur le veut, je vais servir la communion à minuit. Et nous commencerons la nouvelle année, non pas en criant à tue-tête et en faisant toutes ces choses, ce qui est bien si les gens veulent faire tout ça, mais nous, faisons en sorte que ce soit plus sacré et sincère. Et commençons cette année avec une grande sincérité à l'égard de Christ, en donnant tout ce que nous avons, ainsi que notre engagement. Il ne s'agit pas de tourner la page ou quelque chose du genre, commencer une nouvelle année, car nous ne croyons pas à ce genre de choses. Vous tournez la page pour mieux revenir à ces choses le jour suivant. Alors, remettons-lui simplement nos vies et prenons la communion ce soir à minuit. Et à ma connaissance, depuis que je suis ministre, je crois bien que c'est la première fois qu'on fait cela. N'est-ce pas, Frère Neville? Mais c'est quelque chose de nouveau pour nous maintenant. Il est très rare que le Nouvel An se présente ainsi, vous savez. Donc, ça m'avait simplement frappé. Et j'ai pensé que ça marquerait les esprits. Là, je suppose que ce sera plus ou moins la dernière fois que je m'adresserai à vous tous avant un certain temps, comme nous commençons la nouvelle année, car je m'en vais sur le champ de mission au service du Seigneur. Je partirai aux environs de la semaine prochaine ou au début de la semaine suivante à Phoenix pour à peu près 15 ou 16 réunions d'affilée qui auront lieu d'un bout à l'autre des vallées en passant par Sunny Slopes et Scottsdale et partout, dans les vallées là-bas. Et ensuite, nous avons le congrès des hommes d'affaires chrétiens qui se tiendra là-bas à la fin de toutes ces réunions. Et c'est un congrès de 5 jours. Ils ont tout organisé pour que je puisse prêcher à toutes les dénominations, à chacune de leurs églises qui se trouvent partout dans la région métropolitaine de la vallée de Maricopa, à Phoenix. Et ces réunions commencent le 15, alors je partirai une dizaine de jours à l'avance, je m'arrêterai probablement pour rendre visite à mon bon ami, frère mort, et à plusieurs autres en chemin. Il y aura des cols enneigés à traverser et tout, alors je dois partir à temps. Et alors, bon nombre d'entre vous sont prédicateurs. Et frère Roy Borders, s'il est ici ce matin, d'habitude, c'est lui qui s'occupe du programme des réunions, quand les gens appellent pour demander des réunions. Et pendant les vacances de Noël, j'ai pour habitude de faire l'itinéraire de l'année suivante. Mais cette année, pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas eu à cœur de faire cela. J'ai à cœur d'aller faire une série de réunions. Ensuite, de là, j'irai où il me conduira, à la réunion suivante. Et de la réunion suivante, où que ce soit, j'irai simplement où il me conduira. Et maintenant, je m'attends à ce que quelque chose se produise au cours de cette année. Et j'ai eu bon nombre de visions ces derniers temps. L'autre matin, j'en ai encore eu une assez impressionnante. Elle se rapporte toute à quelque chose de très impressionnant qui, on dirait bien, est sur le point d'arriver. Alors, je continue simplement à lui faire confiance. Il y en a certaines dont je ne comprends même pas le sens. Et on ne comprend pas les visions. Elles sont plutôt symboliques. Et parfois, on n'en saisit pas parfaitement le sens. Mais on sait tout de même qu'elles sont vraies. Alors, elles s'accompliront. Je les prends en note. Eh bien, je crois qu'on a aussi annoncé, du moins, on aurait dû l'annoncer, que le conseil d'administration et le conseil des diacres, les deux, doivent se réunir ici au tabernacle pour une union, une réunion commune, demain soir à 19h. Bon, je vais l'annoncer encore une fois pour que les diacres, où qu'ils soient, s'ils se trouvent dans l'autre pièce, qu'ils puissent entendre dans le petit micro que demain soir, à 19h, le pasteur ainsi que le conseil des diacres et celui des administrateurs doivent se réunir demain soir. C'est ce qu'on m'a dit il y a quelques instants. Et frère Neville veut voir son conseil des diacres et lui parler. Et les administrateurs tiennent leur réunion habituelle. Tous ces frères se réuniront donc demain soir. Alors, ce matin, avant d'aborder la parole, ne soyons pas pressés pour quoi que ce soit. On a toute la journée d'aujourd'hui, et ce soir, et demain. Alors prenons simplement notre temps, et n'expédions pas ces choses. Bien sûr, je sais que les gens se fatiguent et s'épuisent, ou bien qu'ils veulent rentrer chez eux, vous savez, pour leur dîner, et pour leur mari qui attend cela. Bon, alors, ça, c'est en ordre. Sortez discrètement, sans faire de bruit. Et ceux d'entre vous qui veulent rester, très bien. Et vous n'avez pas à travailler demain. Alors, nous allons simplement prendre notre temps. Et voilà pourquoi je m'étais dit qu'au lieu de prêcher pour 3 ou 4 heures seulement, je prendrais bien 8 ou 10 heures pour donner un enseignement. Tous ces gens de la Géorgie et de l'Alabama m'ont fait tellement plaisir l'autre soir. Je crois que j'étais dans le bureau et tout le monde était parti, sauf Billy. Et il a dit, frère West et les autres sont des amis très gentils et loyaux. Je ne les vois pas, mais je pense bien qu'ils sont ici. Ils ont appelé et ont demandé, est-ce que frère Branham fera l'école du dimanche matin? Il fait très froid à Louisville. Aux informations, ils ont dit qu'on bloquait complètement les grandes routes et que les chaussées étaient glissantes. Billy a dit, c'est possible. Il a dit, il se rend là-bas. Il a dit, peut-être frère Neville, ou bien lui, l'un des deux. Il a dit, cette possibilité nous suffit. On arrive, tout ce trajet depuis l'Alabama et par ces chaussées glissantes. Et je ne mérite pas d'avoir de tels amis. Ça, c'est vrai. Je ne mérite pas d'avoir de tels amis. Il y a quelque chose là. Ça me coûte toujours de faire l'annonce des réunions, car je sais qu'il y a des gens qui croient le message et qui viendront. Et ces gens m'aiment. J'ai toujours voulu être aimé. Quand j'étais petit garçon, je n'étais aimé de personne. Les gens n'avaient que faire de moi. J'étais ici, dans l'Indiana, né dans le Kentucky. Alors, pour les enfants du coin, je n'étais qu'un pauvre campagnard. Dans la famille, presque tous les garçons fumaient, buvaient et tout ça. Tous, sauf moi. Et j'étais rejeté par ma famille, et rejeté à l'école et au travail. J'étais rejeté, et partout où j'allais, j'étais rejeté. Puis, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aimait vraiment, Jésus. Et il a dit, « Je te donnerai des pères et des mères, des frères, des sœurs et des amis. » Et c'est étrange de voir comment sa grande et sage providence, comment il arrange les choses là. Il semble que l'amour provoque un drôle de sentiment. Pas un sentiment, mais une réaction. Alors, je regarde les gens, puisqu'il m'a appelé à être son serviteur. Je regarde les gens et je vois le péché qui s'infiltre. Puis là, je dois réprimander cela de toutes mes forces. Vous voyez, pour l'arracher. Et ça paraît dur selon ma façon de voir les choses. Eh bien, de dire ces choses-là. N'empêche que, au fond, c'est comme ça que le vrai amour agit. Voyez, le vrai amour. En effet, si votre petit garçon ou votre petite fille jouait dans la rue, là où filent les voitures, vous savez que, tôt ou tard, il se fera mal. Et là, s'il dit, « Mais papa, j'ai envie d'être ici », diriez-vous, « Sois béni, mon petit junior, allez, va jouer dans la rue ». Ça, ce n'est pas un vrai papa. S'il le faut, relevez brusquement ce petit garçon et donnez-lui une fessée, grondez-le, attachez-le et tout, pour l'empêcher d'aller dans la rue. Il se fera tuer, pas vrai? Eh bien, c'est comme ça qu'on doit faire avec l'Évangile. On doit secouer et pousser et faire de son mieux pour garder les gens alignés. Maintenant, j'espère que tout le monde le comprend de cette manière. J'ai confiance qu'un jour, quand tout sera terminé, alors, quand les voiles seront ôtées de sur nos visages, là, nous comprendrons. Frère Way, cette belle Bible que toi et Sir Way m'avaient offerte comme cadeau de Noël, ce sera vraiment bien pour y garder mes notes, plutôt que dans un carnet comme celui-ci, quand j'aurai un moment pour les taper à la machine. Je ne peux pas écrire à la main, parce que j'ai du mal à déchiffrer ma propre écriture. Alors, comment quelqu'un d'autre pourrait-il y arriver? Je leur ai dit que j'avais ma propre sténo. Et je dois examiner cela moi-même, pour comprendre ce que j'ai dit. Et un jour, je ferai taper tout cela. C'est une Bible à feuilles volante, où on peut simplement prendre une page comme ici. J'ai deux passages bibliques ce matin, deux endroits où je veux lire. Et dans cette Bible qu'il m'a offerte, on sort la page comme ça. Et on peut prendre une page de la Genèse, une de l'Apocalypse, de n'importe où, et les mettre ensemble. Et les lire directement comme ça. Voyez? Et là, il y a un petit endroit, ici à l'arrière, où se trouve une page de garde, qui permet de revenir à tous les passages de l'Écriture, notés sur le message et tout ça. C'est merveilleux. Donc, j'espère qu'avec ça, j'aiderai à gagner beaucoup d'âmes à Christ. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. J'aimerais de nouveau dire un mot pour ces beaux cadeaux de Noël que chacun de vous m'a offert. L'Église m'a offert un nouveau complet. Oh, j'apprécie vraiment cela. J'ai reçu deux nouveaux complets pour Noël. Mon frère de la petite église là-bas à Macon, en Géorgie, tout là-bas, frère Palmer, m'a envoyé un nouveau complet. Et le tabernacle m'a offert un nouveau complet. Et il y a tellement de belles choses qu'on m'a offertes. Et des dons en argent comme cadeau de Noël. D'ailleurs, la division de l'impôt sur le revenu m'a fait savoir que s'il s'agit là d'un cadeau de Noël et qu'il est écrit « cadeau de Noël » ou « cadeau d'anniversaire », tout ça, je peux l'accepter. Autrement, ça ira à l'œuvre, ce qui est très bien. Et je remercie vraiment chacun de vous, sans exception, ma femme et moi, ainsi que les enfants et nous tous, nous exprimons notre gratitude envers chacun de vous, sans exception. C'est vraiment gentil. Nous aurions souhaité pouvoir vous rendre l'appareil et vous offrir à tous un cadeau en retour. Mais on ne peut tout simplement pas faire cela. Vous savez, Oh là là, je ne pourrais pas faire cela. J'aurais souhaité pouvoir le faire, mais je ne le peux tout simplement pas. Je suis sûr que vous comprenez, et je sais que c'est aussi ce que ressent mon précieux frère assis ici. Nous sentons simplement que les gens nous aiment, et nous les apprécions. Alors, courbons la tête maintenant pour prier. Préparons-nous à entrer dans le message de ce matin. C'est dans la présence du Dieu vivant que nous venons maintenant, sobrement et dans la crainte à son égard. Nous venons au nom du Seigneur Jésus, sachant que nous ne pourrions pas venir en disant « Maintenant, Père, voici William Branham, ou bien Orman Neville, ou qui que nous soyons, car nous serions vite mis dehors. » Mais nous avons l'assurance qu'il a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez. » Alors, je ne crois pas que j'obtiendrai quoi que ce soit de sa part en me servant de mon nom. Mais je sais que lorsque je me sers du nom de son Fils, c'est là que j'obtiens ce que j'ai demandé. Car c'est en lui que je place ma confiance. C'est en lui que nous avons la vie et l'être. Et nous sommes reconnaissants ce matin, ô Dieu, pour tout ce qu'il représente à nos yeux, toute notre vie et tout notre être. Je te remercie pour cette petite église, pour son pasteur, pour les administrateurs et les diacres, et pour tous les membres. Et je suis reconnaissant de ce que le Saint-Esprit veille sur eux. Puisse ce merveilleux Saint-Esprit les conduire sans cesse et les guider sur les sentiers qu'il voudra leur faire emprunter. En lisant dans les Testaments, l'Ancien et le Nouveau, et aussi dans l'âge de Nicée, nous voyons que lorsque la maladie frappait les saints, toute l'Église se réunissait, et d'un seul cœur, ils invoquaient Dieu, et ce qu'ils demandaient leur était accordé. Chacun d'entre eux, en tant que membre du corps de Christ, jeûnait et priait, et Dieu entendait et exaucait leurs prières. Père, puisse cette petite église être tellement unie par les liens de l'amour les uns pour les autres et par le Saint-Esprit, qu'elle deviendra comme une de ces églises-là, où il n'y aura aucune friction parmi nous au cours de cette nouvelle année. Qu'il y ait un tel amour divin et que tout le monde marche dans la voie de Christ, si bien que beaucoup de pèlerins, épuisés le long de la route, viendront recevoir le salut. Que l'on dise que lorsque les gens entrent dans ce petit bâtiment, la présence de Dieu les y rencontre, et les accueille avec douceur. Éloigne la maladie du milieu de nous, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants de ce que nos cœurs ont faim d'entendre ta parole. Seigneur, rends nos cœurs continuellement affamés de toi. Comme David l'a dit autrefois, comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme soupire après toi. Je pense à cette petite biche, ce cerf, comme on l'appelle de nos jours, qui a été déchiré par les chiens sauvages et qui saigne. Il est en train de perdre la vie. Il doit absolument trouver de l'eau s'il compte survivre. Dès qu'il trouve de l'eau, sa vie est renouvelée. Puissions-nous être tout aussi assoiffés, Seigneur, d'avoir Christ à tout prix si nous comptons survivre, d'avoir Christ à tout prix si nous comptons devenir l'Église que nous demandons à être. Si nous comptons mener les vies que nous désirons vivre, il nous faut à tout prix avoir Christ, sans quoi nous mourrons. Maintenant, alors que nous ouvrons ta parole ce matin, pour trouver un réconfort et des tremplins qui serviront à nous rapprocher de lui. Je prie, Père, que le Saint-Esprit nous ouvre la parole pour que, Seigneur, en tant que tes serviteurs, nous soyons mieux équipés pour affronter la nouvelle année, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Now, thinking this morning that on the basis of being New Year, I thought it would be good, maybe.
Eh bien, je pensais ce matin, compte tenu du fait que c'est le Nouvel An, j'ai pensé que ce serait peut-être bien de remettre mon message Nouvel An à ce soir et de revenir ici à des passages de l'Écriture pour l'école du dimanche, prendre pour sujet l'un des thèmes les plus vitaux de la Bible, à ma connaissance, et en parler pendant quelques instants. C'est une doctrine que notre Seigneur a été le premier à prêcher, la première doctrine que Jésus a prêchée. Et je crois qu'il serait bon d'en faire notre première leçon de l'année. Bon, trouvez-vous qu'il fait frais? Levez la main si vous avez un peu froid. Je me disais bien que j'avais senti ça par ici. Doc, où que tu te trouves, augmente un peu la température de la chaudière, parce que je sens ce courant d'air froid. Je suis sûr que certains d'entre vous, là-bas, vous le sentez aussi, surtout ceux qui ont des enfants.
Now, let us turn in our Bibles this morning to Ephesians, the fourth chapter of Ephesians. And let's begin reading.
Maintenant, prenons nos Bibles ce matin dans Éphésiens, au chapitre 4 d'Éphésiens, et commençons à lire au verset 11, du chapitre 4 d'Éphésiens. Et ensuite, de là, nous prendrons Jean 3, 1 à 12. Nous lirons donc deux passages de l'Écriture. Je lis maintenant le chapitre 4 d'Éphésiens, en commençant au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.
For whom the whole body is fitly joined together and compact.
C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Bon, j'ai lu ceci pour que ça vous donne matière à étudier une fois chez vous. Maintenant, je vais lire mon texte dans Jean 3, un passage de l'Écriture qui nous est très familier. Et il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est de la chair, et ce qui est né de esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses ?» en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne percevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Maintenant, que Dieu bénisse sa parole. Et ce matin, je veux prendre pour sujet la première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus, c'était « Il faut que vous naissiez de nouveau ». C'était sa première doctrine. Bon, je vais apporter cela comme une leçon d'école du dimanche. Comme ça, je ne vais pas prêcher et m'enrouer la voix pour ce soir. Et j'ai pensé dans mon cœur que c'est là quelque chose qui n'est pas très clair pour les gens. On en entend tellement parler tout le temps. Et j'ai pensé que ce serait bien ce matin si on étudiait ce sujet à fond pour le rendre clair. Et ça, c'est la première des choses. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est un sujet vraiment profond. Et nous découvrons qu'il y a beaucoup de significations différentes que les gens donnent à cela. Presque toutes les églises disent qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Mais chacune d'elles a ses différentes interprétations sur le sujet, sur ce que naître de nouveau signifie. Je pourrais me rendre à l'église méthodiste ce matin. Eux, ils disent, nous croyons qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Quelle interprétation donnez-vous à cela? Si je me rends à l'église baptiste et nous croyons qu'il faut que vous naissiez de nouveau, quelle interprétation donnez-vous à cela? Et si je me rendais dans chacune de ces églises, on trouverait, si on se rendait dans toutes les 900 différentes dénominations, il y aurait 900 interprétations différentes. Alors, étant donné qu'il existe tellement d'interprétations différentes, et pourtant, une seule doctrine de la Bible, il doit bien y avoir une vérité quelque part, et c'est le cas. Eh bien, maintenant, souvenez-vous, il n'est pas dit, il serait souhaitable que vous naissiez de nouveau. Mais il faut. Maintenant, nous les anglophones, nous comprenons ce que le mot « must » veut dire. C'est que vous êtes absolument tenu de le faire. Voyez, c'est une nécessité absolue. Non pas, ce serait souhaitable. Vous seriez beaucoup mieux ainsi, mais il faut que vous naissiez de nouveau. Oh, si nous pouvions prendre ce terme ce matin et en décortiquer le sens, voir qu'il est totalement impossible, et alors, si c'est si important, si primordial, qu'il est totalement impossible d'entrer dans le royaume des cieux, ou même de le voir, à moins de naître de nouveau. Et qu'il y a tellement d'interprétations différentes de ce terme « naître de nouveau ». Nous devons chercher de tout notre cœur pour en découvrir le sens. Il n'y a pas une personne ici qui veuille aller dans le lieu de tourment. Personne. Et vous ne faites pas des centaines de kilomètres en voiture, sur des routes verglacées, et vous ne dépensez pas votre revenu, votre argent, rien que pour venir à l'église ici pour, eh bien, serrer la main aux gens, bien que vous aimiez faire cela, et entendre le pasteur et moi-même, et d'autres ministres prêcher la parole. Vous en trouvez où que vous soyez, des pasteurs, des ministres, tout comme nous, des serviteurs de Christ. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici, à cet endroit en particulier. Alors, il est de notre devoir, en tant que pasteur, de veiller à ce que le troupeau soit nourri et qu'il soit nourri correctement. Parce que le Dieu Tout-Puissant nous redemandera votre sang. Et au jour du jugement, nous aurons à rendre des comptes pour vous. Alors, en voyant cette énorme responsabilité qui repose sur nous, et puisque Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, nous devrions passer notre temps à veiller sans relâche sur vos âmes. Et dès lors que nous voyons surgir la moindre chose qui n'est pas en ordre, il est de notre devoir d'aller voir cette personne, puisque nous sommes des bergers qui veillent sur cette brebis. Et si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui la tuera, je ferais mieux de l'éloigner de cette mauvaise herbe, lui arracher cette mauvaise herbe, afin qu'elle ne puisse pas l'atteindre, parce que ça tuerait la brebis. Il existe, dans les régions de l'Ouest, une mauvaise herbe qu'un animal mange. On l'appelle l'herbe loco. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà entendu parler de ça ou pas. L'herbe loco, oui. Si un cheval en mange, vous ne pouvez plus rien faire avec lui. Il devient complètement rebelle. Vous ne pouvez pas lui mettre de sel. Vous ne pouvez rien faire avec lui. On l'appelle l'herbe loco. Et il faut que vous teniez votre bétail éloigné de cette mauvaise herbe. Et si ça peut amener un cheval à manger quelque chose, ou plutôt, si un cheval, s'il peut manger quelque chose qui le met dans cet état, qui provoque ses accès de folie, eh bien, vous seriez un bien piètre cow-boy si vous laissiez votre cheval manger une mauvaise herbe, cette herbe loco. Cela montre que ça vous est égal. Et un véritable pasteur, un véritable serviteur de Christ, serait un piètre exemple de Christ s'il regardait la brebis manger quelque chose qui la ferait s'éloigner ou qui ferait d'elle une rebelle devant Dieu, une violatrice de la parole, une violatrice de ses commandements. Vous ne devriez pas faire cela. Vous devriez surveiller cela de très près. Donc, cette grande doctrine de Jésus inscrite ici sous nos yeux dans la Bible, il faut que vous naissiez de nouveau. Comme je l'ai déjà dit, il y a tellement de versions différentes sur le sujet que je me disais ce matin que, pour le bien de tous ceux qui m'ont demandé quel en était le sens et comment faire pour devenir de véritables chrétiens, je me suis dit que nous allions peut-être aborder le sujet et que je vous l'apporterai le plus clairement possible, non pas sous forme de prédication, mais plutôt sous forme de leçons d'école du dimanche, pour que les gens puissent saisir le message. Maintenant, on trouve beaucoup d'interprétations de ce terme « naître de nouveau ». Et maintenant, je dirai ceci, et je sais qu'on enregistre, et je veux dire ceci aux pasteurs qui recevront peut-être cette bande. Je suppose que c'est un peu différent de ce que l'Église a l'habitude d'enseigner à ce sujet. Moi, j'enseigne et je crois. Et je crois pouvoir très bien le démontrer par l'Écriture, qu'on est de l'Esprit et qu'ensuite on est baptisé dans le corps par le Saint-Esprit. Maintenant, nombreux sont ceux qui enseignent que le simple fait de s'avancer et de se faire connaître devant l'Assemblée et tout ça, comme pécheur, et de vouloir accepter Christ comme sauveur personnel, c'est cela la nouvelle naissance. Bien des gens croient que le baptême d'eau C'est cela, la nouvelle naissance. Et certains croient qu'on est d'eau, quand on est baptisé dans l'eau. Et il y a tellement de versions différentes sur le sujet. Bon nombre d'entre eux, bien des gens croient que le fait de réciter un credo et de croire à la doctrine d'une église, de simplement l'accepter et dire « Je crois à la Sainte Église, telle Église, et je crois que Dieu est le sauveur de l'homme, et ainsi de suite. Et à compter de ce jour, je deviens membre de cette Église, et je vais être en communion avec les chrétiens. » Ils pensent que c'est cela, naître de nouveau. Bien que ce credo qu'ils récitent, je ne crois pas que nous puissions le critiquer, car certains sont purs et saints, certains sont vraiment conformes aux Écritures. Mais l'Écriture n'est pas appliquée là où il faut. Et même si vous appliquez l'Écriture, je crois ceci, que la nouvelle naissance est quelque chose au-delà de tout cela. Peu importe à quel point vous voulez bien faire, je crois que la nouvelle naissance est bien au-delà de vos bonnes intentions et de vos pensées, de vos capacités intellectuelles. C'est au-delà de tout cela. Je ne veux pas dire ceci pour être sacrilège, et je ne fais de remarques désobligeantes envers aucune organisation d'église. Mais ça me rappelle beaucoup l'histoire d'un juif, une petite, c'est une plaisanterie. Et je ne crois pas qu'on devrait raconter des plaisanteries à la chaire. Ceci n'est pas un endroit pour plaisanter. Donc, c'est pour exprimer ce point que j'ai à l'esprit. Ce n'est pas pour plaisanter, mais pour vous illustrer ce que je veux dire. Un jour, un prêtre catholique est allé chez... C'était un vendredi. Il est allé chez un nouveau converti à la foi catholique. Et le converti catholique avait fait cuire un jambon. Et il a dit, « Mon père, je suis désolé, je viens de me rappeler qu'aujourd'hui, on est vendredi. » Mais je crois que, d'après la grande doctrine de notre Église, autrefois, j'étais un juif. Puis, vous m'avez aspergé d'eau bénite. Et du juif que j'étais, cela m'a transformé en un catholique. Maintenant, je vais asperger un peu de cette eau-là sur ce jambon et en faire un poisson. Eh bien, ça, le fait de dire cela n'en fera pas un poisson. Ça reste un jambon. Peu importe à quel point on peut prétendre que l'eau est bénite. Et peu importe à quel point on essaie de penser qu'on a raison quand on récite un credo et qu'on adhère à une église, là encore, vous restez ce que vous étiez, à moins que vous ne naissiez vraiment de nouveau de l'Esprit de Dieu. Tout cela ne vous change pas. Votre credo, le fait d'adhérer à une église, ou de changer votre façon de penser, ou vos bonnes intentions, aussi bien que ça puisse paraître, là encore, ce n'est pas juste. Il faut que quelque chose arrive. La nouvelle naissance est une expérience, quelque chose qui se passe. Donc, ce ne sont pas ces choses-là qui produisent la nouvelle naissance. Maintenant, ces différentes églises, elles diraient, « Eh bien, acceptez ceci ou croyez cela, et c'est en ordre. » Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, pour commencer, pour servir de fondement, la raison pour laquelle il faut que nous naissions de nouveau, c'est parce que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges.
Then that shows us that our nature, to begin with, is sinful.
Alors, cela nous montre que, pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Nous ne valons rien pour commencer.
So, we cannot claim anything.
Nous ne pouvons donc pas revendiquer quoi que ce soit sur la base de notre habileté, de notre sincérité, ou de notre importance, ou de notre petitesse, ou quoi encore. Nous sommes entièrement dans l'erreur, dès le départ. Et nous ne pouvons rien y changer. Vous ne pouvez pas. Jésus a dit, qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une mesure à sa taille? Vous aurez beau vous inquiéter constamment, rêver de cela constamment, lire à ce sujet, l'étudier, l'examiner, et tout ça. Et ça ne vous aidera pas, pas d'un seul iota. Alors ça élimine déjà tout ça. J'en suis heureux, parce que si cela résidait dans l'idée de connaître quelque chose, d'être intelligent, nous, pauvres illettrés, nous aurions été mis à l'écart, et nous n'aurions eu aucune chance. Mais Dieu a changé les choses, ou plutôt, ça n'a jamais été son mode de fonctionnement dès le départ. Les églises compliquent toujours les choses. Dieu, lui, les simplifie. Alors les choses sont ramenées au point où nous pouvons tous voir. Nous pouvons tous avoir cela. C'est pour celui qui veut. Bon, maintenant, aucun homme ne pourrait en sauver un autre. Eh bien, les gens auront beau essayer de dire n'importe quoi. Aucun homme ne peut en sauver un autre. Peu importe combien il est intelligent, la nature de sa fonction, qu'il soit pasteur, prêtre, évêque, cardinal ou bien pape, il ne peut rien faire pour sauver la vie d'aucun homme, parce qu'il est lui-même pécheur. Né dans le péché, enfanté dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Il est un menteur dès le départ, et toute parole qu'il prononcerait serait un mensonge, si elle était contraire à la parole de Dieu et au plan de Dieu. Mais Dieu a établi un plan pour sauver l'homme, et l'homme ne peut rien ajouter à ce plan-là. C'est le plan de Dieu. Et c'est le plan que nous voulons étudier ce matin. Quel est le plan de Dieu? Il a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, que la mienne soit reconnue pour vérité. Ainsi donc, nous n'oserions pas changer une seule phrase pour en faire quelque chose d'autre. Peu importe ce que disent nos rites et ces choses-là, il faut qu'on oublie tout ça. Ceci, c'est la parole de Dieu. Il est tout simplement impossible de faire autrement. Dieu a un plan. Il a établi un plan. Et souvenez-vous, à moins que vous ne naissiez d'abord de nouveau, vous ne comprendrez jamais. Il a dit cela à deux reprises. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume. Et ça, en plus, ça a été ponctué. Le terme, quand ils ont procédé au choix de tous ces termes, j'ai appris qu'ils devaient retranscrire tout cela. Quand il est dit « en vérité », ça, c'est une ponctuation, comme une majuscule. En vérité, je vous le dis. Et ce terme, à un endroit, ou même à bien des endroits, est traduit par absolument. Absolument. Absolument, je vous le dis. Qui a dit cela? Est-ce un cardinal? Un prêtre? Un pasteur? Un évangéliste? Un pape? C'est Dieu lui-même. Alors, il n'y a pas d'excuses. Il ne peut pas, pas du tout, par aucun autre moyen, peu importe son importance, son nom, sa grandeur ou sa popularité, il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu, à moins d'être né de nouveau. C'est un grand sujet. En vérité, je vous le dis, observez, allez chercher dans la version grecque. Vous remarquerez qu'il ne s'agit pas de voir avec les yeux, mais de voir avec le cœur. Voyez-vous, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu avec vos yeux, parce que c'est un royaume spirituel. Voyez ? Autrement dit, vous ne serez jamais capable de comprendre le royaume de Dieu, à moins que vous ne naissiez de nouveau. Il s'agit d'un mystère éclairci. Et quand vous êtes né de nouveau, les plans du royaume, le royaume en soi, devient réel pour vous, comme un entrepreneur qui doit construire un bâtiment. À moins qu'il ne sache lire un plan, il est inutile qu'il essaie de construire un bâtiment s'il ne comprend pas le plan. Et alors, quand il comprend le plan, il sait comment s'y prendre pour construire le bâtiment. C'est comme ça. C'est ce qui se passe avec le fait de bâtir le royaume de Dieu. Il faut que vous compreniez le plan. Et vous ne pouvez pas connaître le plan à moins que vous ne naissiez de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, et que par la suite, vous rejetez le plan, que se passe-t-il ? Une charmante jeune fille qui vient de... Je sortais avec sa mère à l'époque, quand nous étions jeunes. C'était une femme charmante, ravissante. Elle s'appelle Huff maintenant. Elle s'appelait Lee avant de se marier. Quand j'étais pasteur à l'église baptiste de Milltown, ils étaient membres de l'église des Frères Unis. Mais, oh, ils m'appréciaient vraiment beaucoup. Et elle, je sortais avec elle à l'époque. Ils vivaient très loin, derrière la maison de frère Wright, ici présent. Ah, j'avais l'habitude d'aller chez eux, là-bas. Et cette jeune fille était une très gentille jeune fille. Et elle était ma petite amie. Et frère Lee, un homme bien, fidèle à l'Église, à l'idéologie de l'Église des Frères Unis, il m'avait invité à rentrer avec lui un soir et à passer la nuit chez lui. Et j'avais dit, « Frère Marion, ça me ferait plaisir. » Alors, une fois le service terminé, eh bien là, la jeune fille et moi étions montés dans la voiture et nous étions partis. Et j'avais dû ouvrir une douzaine de barrières, je crois bien, en passant par le flanc de la colline, là, avant d'arriver à une grande maison de rondins. Eh bien, nous sommes restés dans le jardin en attendant que sa mère, son père et sa petite sœur arrivent. Quand ils sont arrivés, nous sommes tous entrés pour prendre un léger repas ce soir-là. Sa mère a sorti un peu de nourriture, nous avons mangé, et son père et moi avons dormi ensemble au rez-de-chaussée, sur un grand lit de plumes installé sur une paillasse. Vous savez, on y dort vraiment bien. C'est plus confortable que tous ces matelas Beauty Rest qu'on peut se procurer, je vous assure. Alors nous, la mère et les deux filles étaient montées à l'étage. Et cette nuit-là, pendant que nous étions couchés là, frère Lee a eu un songe, et il avait toujours contesté avec moi au sujet du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y croyait pas. Et il était entrepreneur. Donc il a dit, « Frère Branham, je viens d'avoir un songe. » Il a dit, « J'ai rêvé que j'étais allé à New Albany. Je construisais la maison d'un monsieur, et il m'avait donné le plan. » Mais quand j'ai vu la façon dont il avait placé ses fenêtres et, à un certain endroit, la façon dont c'était dessiné, je me suis dit, ce n'est pas bon, impossible, c'est incohérent, ce n'est pas bon ça. Alors, j'ai construit cela de la façon que je pensais être la bonne. Et à son retour de vacances en Floride, j'avais pratiquement fini sa maison. Il a regardé la maison, il est allé chercher le plan et l'a regardé. Et il a dit, « Dites, vous avez mal construit ma maison. » Je lui ai répondu, « Non, je n'ai pas mal construit votre maison. Et cet endroit-là, eh bien, a-t-il dit, en fait, ça ne devrait pas se trouver là. » Il a dit, « Démolissez-moi ça. Si vous vous attendez à ce que je vous paye, vous la construirez d'après le plan. » Et il a dit, « Qu'en pensez-vous, frère Branham ?» J'ai dit, « Il y a un ruisseau qui passe là-bas, à côté de la maison. » Et nous y sommes allés. Il a dit, « Je ne veux pas qu'il y ait une démolition ce jour-là. » J'ai dit, « C'est maintenant qu'il faut faire les choses correctement. Construisez-la d'après le plan. » Cela a porté ses fruits, car dernièrement, l'une de ses, sa fille, a ensuite épousé un bon garçon, un homme bien. Il est machiniste ici au chantier naval. Et les doigts du jeune homme avaient été coupés, comme ça, quelqu'un de bien. Ils ont une charmante famille, trois jeunes filles, et l'une d'elles, elles sont toutes chrétiennes, et elles chantent en trio. Si jamais nous tenons une série de réunions ici, elles viendront chanter pour nous. Et l'une de ces jeunes filles s'est spécialisée dans l'étude du piano. Elle est devenue professeure de musique classique alors qu'elle était très jeune, à 15 ou 16 ans. Et à l'école, les enfants ont commencé à la taquiner sur diverses choses et sur le fait d'être chrétienne, ce qui a affecté ses nerfs et lui a fait faire une dépression nerveuse. Elle a perdu la tête. On l'a gardée à Louisville et on allait l'emmener à l'hôpital psychiatrique le lundi suivant. Il refusait, les médecins refusaient que je la voie. Alors, j'y suis allé en tant que visiteur, et je me suis assis auprès du lit avec le père et la mère. Et alors que j'étais assis là, le Saint-Esprit est venu dans ce sanatorium, Notre-Dame de la Paix à Louisville, où on interne les patients souffrant de nervosité, quand il y a encore de l'espoir pour eux. Ensuite, si on ne peut plus rien faire pour eux, on les envoie à Madison dans l'Indiana. Et la jeune fille allait partir pour Madison cette semaine-là. On ne pouvait plus l'aider. Et alors que nous étions assis là, une vision a surgi devant nous et a parlé à cette fille au nom du Seigneur Jésus. La mère m'a saisi le genou, a levé le bras, saisi la main de son mari et a dit, « Ça ne fait jamais erreur !» J'ai dit, « Ne vous en faites pas, elle va se rétablir. » J'ai vite quitté le bâtiment. Ce soir-là, à 21h, le téléphone a sonné, ou je crois que c'était un peu avant 21h, avant que je vienne à l'église ce soir-là. C'était un dimanche. Et le père, le cœur transporté de joie, a dit, « Je ne pouvais pas rentrer chez moi sans vous faire part de la bonne nouvelle, frère Branham. » Il a dit, « Le médecin est passé pour examiner ma fille. » Il a dit, « Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle pourra rentrer à la maison demain. » Quand le corps de maman était étendu là, il y a quelques semaines, ce trio était là-bas. Cette jeune fille, aussi charmante qu'elle pouvait l'être, accompagnée de son petit ami, tous deux très agréables. Oh, je vous le dis, le plan, c'est la parole de Dieu qui doit expliquer le programme, la façon dont il faut que nous naissions de nouveau. Premièrement, nous considérons que nous sommes pécheurs et que nous méritons d'être condamnés. Et nous sommes tous nés dans le péché et enfantés dans l'iniquité. Il n'y a pas la moindre chose qui soit saine en nous. Notre entendement est mauvais. Nos âmes sont corruptibles. Nos pensées sont constamment tournées vers le mal. Toutes les pensées imaginaires qui occupent l'esprit de l'homme, du pécheur, sont mauvaises. Et aussi, notre corps est faible. Notre esprit n'a rien de bon. Et nous sommes vraiment remplis de corruption. Alors, comment quelque chose de corruptible pourrait-il produire quelque chose de bon, tiré de quelque chose qui est corruptible? Permettez-moi de dire ceci. Dans Job, au chapitre 14, il a dit, « Puisque l'homme naît de la femme, il est sans cesse agité et plein de chagrin. Même s'il naît comme une fleur, il disparaît. » Et le prophète poursuit en disant, « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. » Si vous plongez votre seau d'eau dans un puits et que vous en tirez un seau d'eau stagnante, ça sent mauvais. Vous regardez à l'intérieur, elle est boueuse. Il y a de petits vers dans cette eau-là. Il n'y a absolument pas moyen pour vous d'y replonger votre seau et d'en obtenir un seau d'eau pure. Le puits est entièrement contaminé. Et l'âme, l'esprit et le corps de l'homme sont entièrement contaminés par le péché. Physiquement, il naît dans le péché. Il est enfanté dans l'iniquité. Il vient au monde en disant des mensonges, si bien que son âme elle-même est contaminée. Rien de bon. Aucun homme ne peut en racheter un autre, parce que tous sont mauvais. Vous ne pouvez pas prendre un seau rempli d'eau contaminée ici et un autre seau d'eau contaminée, puis mélanger les deux. Vous obtiendrez plus de contamination. Il n'y a aucune purification possible. Mais Dieu avait résolu de sauver l'homme. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La peine du péché dans lequel on est né. La peine du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Et la peine était tellement grande qu'aucun de nous ne pouvait aider l'autre. Il fallait donc qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'expier cette peine. Et si ce matin, la peine pour quitter cette pièce s'élevait à 100 milliards de dollars, aucun de nous ne pourrait partir d'ici, parce qu'aucun de nous n'en aurait les moyens. Mais alors, si quelqu'un arrivait, quelqu'un qui aurait assez de moyens pour la payer pour nous tous, il faut une personne. Nous ne pouvons pas le faire. Il a fallu quelqu'un de digne. Oh, j'aurais vraiment souhaité m'arrêter ici un moment, revenir à Ruth et à Naomi, vous montrer que le parent rédempteur, pour racheter la propriété perdue, devait premièrement être digne, devait être un parent. Voilà pourquoi Dieu, l'Esprit, Jéhovah, est devenu un parent pour nous, en prenant la forme d'une chair humaine. Il est devenu un parent pour nous. Il fallait qu'il le soit. Puis, il fallait qu'il soit digne. Et c'est lui qui a produit cette source remplie du sang des veines d'Emmanuel. C'est lui qui a porté nos iniquités. J'en ai un merveilleux type ici, dans Nombre. J'ai mes passages des Écritures notés ici. Dans Nombre, le merveilleux type qui illustre cela se trouve là-dedans. C'est tellement beau. Si vous pouvez voir cela, c'est le serpent d'airain qui a été élevé dans le désert. Pour Israël, la morsure de ce serpent était mortelle. Et il n'y avait pas de remède. Il n'y avait pas de médecin parmi eux qui avait le remède ou la guérison. Il y avait des médecins parmi eux, mais ils ne pouvaient rien faire contre cette morsure. Comme je l'ai dit, il n'y a aucun médecin parmi nous qui soit capable de guérir le péché. C'est une morsure mortelle. Et nous sommes tous coupables, tous enfantés dans l'iniquité. Nous sommes tous coupables. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Là, ils étaient coupables. Il fallait donc expier la mort, la peine de mort. Mais Dieu a dit à Moïse d'ériger un serpent d'airain et de le mettre sur un poteau. Et alors, il n'y avait rien que le peuple puisse faire. Aucune somme d'argent qu'il devait payer. Rien du tout. Pas de credo qu'il devait réciter, pas d'église auquel il devait adhérer. Il devait simplement regarder et vivre. Vous voyez comme c'est simple? Regardez et vivez. Il ne s'agit pas d'adhérer à une église ou d'éprouver une sensation. Vous n'avez pas besoin de ressentir un drôle de sentiment. Regardez simplement et vivez. Voilà tout. C'est tout simple. Non pas... Si vous retenez tous les 10 commandements, vous vivrez. Non pas si vous connaissez toutes les ordonnances, mais regardez et vivez. C'est tout ce qu'il fallait faire. Et tous les hommes qui regardaient vers lui vivaient. Jésus, quand il était ici, sur la terre, il a dit, en parlant à Nicodème, il a dit, « Comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même. Pourquoi ? De la même manière, pour la même chose, dans le même but, pour faire le même travail. » Souvent, ça laisse les gens perplexes quand ils voient que le serpent représente Jésus. Le serpent représentait Jésus en ce sens. Avez-vous remarqué que le serpent était mort? Il n'y avait pas de vie en lui. Jésus est mort. Comme Cain, quand il a tué Abel. Abel est mort sur l'autel avec son sacrifice. Après qu'Abel a offert son sacrifice, qu'il a immolé son sacrifice pour son péché, là, il est mort sur le même autel avec son sacrifice. Pour naître de nouveau, il vous faut mourir sur l'autel avec votre sacrifice, être aussi mort que lui l'était. Alors, vous naissez de nouveau. Ce serpent n'avait pas de vie en lui. Et vous dites, pourquoi était-il d'airain? L'airain représente le jugement, divin. Avez-vous remarqué que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'autel où l'on brûlait le sacrifice était fait d'airain? L'airain représente le jugement. Comme Élie, à son époque, qui est allé observer les cieux pour voir si, après sa prière, la pluie venait, et qui a dit, « Le ciel est comme de l'airain. » Qu'est-ce que c'était? Le jugement divin sur un peuple d'incrédules, une nation d'incrédules qui avait abandonné Dieu. C'était le jugement divin. D'airain. Et le serpent lui-même, son aspect représentait le péché déjà jugé. Car le serpent a été jugé dans le jardin d'Éden. Il était le serpent jugé. Et lorsqu'on regarde Christ, on voit cette peine. Le seul, Dieu lui-même, fait chair. Dieu est venu sur la terre et a pris sur lui les péchés de nous tous. Et le jugement et la colère du Dieu Tout-Puissant se sont déversés sur son corps. Et là, son corps a été déchiré à la croix. Voilà le vrai jugement. Il a foulé la cuve du vin de la colère de Dieu, seul. Seul, il a parcouru ce chemin. Seul, il est mort, sans le secours d'un ange, d'un homme, de son église, de sa mère, de ses frères, de son père. Abandonné de Dieu, de l'homme et de la nature. Il est mort seul pour nous montrer que même la nature ne peut pas nous porter secours à l'heure de la mort. Il n'y a pas d'amis, pas de prêtres, pas de pape, pas de pasteur. C'est la mort. Mais il y a quelqu'un qui s'est chargé de cela pour nous. Il n'y avait pas de vie dans ce serpent. Il était complètement cristallisé. C'était ça la peine. Il est mort, à tel point que la terre a eu honte d'elle-même. Il est mort, à tel point que les étoiles ont eu honte. Il a souffert, à tel point que le soleil a refusé de briller. Il a souffert, à tel point que la lune a éteint ses lumières. Il a souffert. À tel point que même les éléments de la terre sont devenus complètement noirs et obscurs. Il faisait nuit noire, une obscurité palpable. Il n'y avait plus rien. Personne n'a jamais souffert de la sorte, ni ne pourra jamais souffrir de la sorte. Aucun mortel ne pourrait passer par là. Mais lui, il a souffert tout cela. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a fait tomber ses jugements sur lui. Et il a foulé la cuve du vin de la colère de Dieu, seul, sans aucun secours. Rien ne pouvait lui porter secours. Dieu avait fixé la peine. Tout était sous cette peine. Et rien ne pouvait lui porter secours. Parce que nous sommes tous coupables. Aucun souverain sacrificateur n'aurait pu venir lui porter secours. Rien ne pouvait lui porter secours. Aucun pape, aucun ange. Tout se tenait en retrait et observait cela. Les moments les plus importants de l'histoire de ce monde. Il est mort à tel point qu'il ne restait plus une seule goutte de vie en lui. Et il est devenu comme le serpent d'airain, un ornement cristallisé, suspendu à la croix. Maintenant, pour atteindre cette naissance, il y a une façon de l'atteindre. Et pour ce faire, pour atteindre cette naissance, vous devez passer par un processus. Exactement comme tout ce qui vit. Tout ce qui revit doit d'abord mourir. Et vous ne pouvez pas garder votre même esprit. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme lui est mort. Vous devez mourir sur son autel, comme Abel qui est mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir. Mourir à votre façon de penser, pour naître à sa façon de penser à lui. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Vous devez penser ses pensées. Et maintenant, frères, sœurs, permettez-moi d'exprimer ceci le plus intelligemment possible. Comment pouvez-vous penser ses pensées alors que vous niez sa parole et quand même prétendre être né de nouveau? Posez-vous donc cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ses pensées. Si la pensée de Christ est en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible l'enseigne. Et si un frère le désire, eh bien, vous trouverez ce mot « créature ». Cherchez ce mot « créature » dans le lexique, et vous découvrirez que le mot « créature » est interprété ou traduit par « une nouvelle création ». En effet, vous êtes une création, un être humain né d'un désir sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, vous êtes une nouvelle création née de l'esprit. Vos propres pensées sont mortes. Elles sont tellement mortes qu'elles sont en cristal. Tout comme le serpent d'airain, ou tout comme lui quand il est mort, que les cieux, la terre et tout ont attesté qu'il était mort. Il était tellement mort que même le sang et l'eau se sont séparés dans son corps. Sa mort a été si extraordinaire que, je le dis, le monde a fait une dépression nerveuse. Le monde a été ébranlé, il a tremblé au point que des rochers se sont écroulés des montagnes. Qu'est-ce qui pouvait mourir comme ça? La mort d'un pape n'aurait pas provoqué tout ça. La mort d'un pasteur n'aurait pas provoqué tout ça. Mais quand Dieu en chair est mort sur la croix, la terre a fait une dépression nerveuse. De savoir que la parole parlée même de Dieu, les rochers, la poussière, les morceaux de bois, les bâtons et les arbres suspendus sur la terre, les étoiles et la lune, sa parole parlée même, ont vu leur créateur devenir chair et le péché être déversé sur lui. La colère de Dieu s'est déversée sur lui, à tel point que la lune a éteint sa lumière, le soleil a éteint sa lumière. La terre a tremblé de nervosité. Elle a fait une dépression nerveuse. Tout aurait volé en éclats s'il n'y avait pas eu d'avenir pour nous. Et si ces éléments de la terre, en regardant, ont vu ce qui se passait et ont été ébranlés à ce point, qu'est-ce que cela devrait nous faire, à vous et moi? Qu'est-ce que nos âmes devraient faire lorsque nous regardons et voyons ce que Dieu a fait pour nous? Et tout ça, c'était pour vous et moi. Qu'est-ce que cela devrait nous faire? Demeurer dans le péché? Loin de là. Nous devrions plutôt nous abstenir de tout péché, mourir au péché. Ne voyez-vous pas ce que le péché lui a fait? À lui, le péché l'a tué. Il a pris sur lui la peine du péché, afin de pouvoir nous amener la justice de Dieu, à vous et à moi. Alors, quand la justice de Dieu vient à nous, le péché est mort dans nos êtres mortels. Oh, j'espère que vous le voyez. Oui, pour naître de nouveau, il vous faut passer par le processus de la mort. Tout doit passer par là. Prenez un grain de maïs. Si ce grain compte revivre un jour, il doit mourir premièrement. Si un grain de blé compte revivre un jour, il est totalement impossible. En effet, ce maïs, ce blé, cette fleur, cet arbre, cette herbe, ce légume, tout ce qui compte revivre doit d'abord mourir. Alors, comment pourriez-vous y échapper? Vous devez d'abord mourir. Vous devez mourir. Mourir comment? À vous-même. Mourir à toute chose. Pour que vous puissiez naître de nouveau. Vous le devez. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez jamais revivre. Et remarquez, savez-vous que chaque jour, quelque chose doit mourir pour que vous viviez? Je m'adresse maintenant à vous, les adventistes du septième jour, qui sont parmi nous. Bien des gens disent, « Je ne tirerai pas sur un écureuil, frère Branham. Je ne tuerai pas une biche ou un lapin, un poisson, parce que je ne crois pas que nous devrions tuer quoi que ce soit. » Mon frère, savez-vous que les légumes et toutes ces choses que vous mangez, ça aussi, c'est une vie? Il vous faut les tuer. Et le seul moyen pour vous d'exister dans cette vie, il faut que quelque chose meure pour que, par la perte de sa vie, vous viviez. Maintenant, si quelque chose doit mourir pour que, par sa vie mortelle, vous viviez ici sur la terre, viviez de façon mortelle, alors, ne fallait-il pas que quelque chose meure pour que, par sa vie, vous viviez éternellement? Posez-vous donc la question. Et cette personne-là, c'était Christ, parce que personne d'autre ne possède l'immortalité. Seul le Fils possède l'immortalité. Et il se donne à vous lorsque vous l'acceptez, tout simplement. Or, il faut qu'il y ait la mort. Et ça ne veut pas dire de tourner la page maintenant, en cette nouvelle année. Vous dites, « Frère Branham, ça fait déjà longtemps que je fréquente ce lieu. Je suis membre de l'Église. Cette nouvelle année, je vais tourner la page et repartir à neuf. » Ça ne veut pas dire ça. Il ne s'agit pas de tourner la page, mais bien de mourir et de naître de nouveau. Voyez, vous devez vous sentir tellement coupable quand vous vous tenez dans sa présence, que vous suiviez la tendance méthodiste ou la tendance baptiste ou quelle que soit la tendance que vous suiviez. Il faut que vous soyez tellement coupable et que vous vous sentiez tellement coupable que vous, ça vous tuera. C'est vrai, ça vous tuera. Votre vie mondaine mourra sur place. Vous devez vous reconnaître tellement coupable dans la présence de Dieu que votre vie mondaine meurt sur place. Quand vous vous tenez dans sa présence, la question du péché, pour vous, c'est terminé. Quand vous regardez de cette manière-là, vous vivrez à coup sûr, parce que vous mourrez. Et le seul moyen pour vous de vivre de nouveau, c'est de mourir premièrement, afin de vivre de nouveau. Maintenant, vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Oui, à ce qu'est la naissance, la nouvelle naissance. Il faut d'abord mourir pour pouvoir naître de nouveau. Et si vous avez encore en vous les choses du monde, vous n'êtes pas né de nouveau. Comment pourrez-vous prétendre être né de nouveau alors que vous avez encore les choses du monde accrochées à vous? Voyez, comment pouvez-vous le faire? L'autre jour, de jeunes chrétiens, un groupe de gens, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais j'ai regardé certaines photos, des chrétiennes, des chrétiens, tous charmants, tous ensemble en maillot de bain, en train de nager, là. Voyez, c'est vraiment... Ils disaient, c'est ça le vrai amour. C'est ça la vraie souillure. Ce n'est pas de l'amour. L'amour s'exprime d'une toute autre façon. Par la foi, nos âmes sont placées sur son autel d'airain, le jugement de Dieu, et notre offrande est consumée. Maintenant, souvenez-vous, quand Élie, sous ses cieux d'airain, a déposé l'offrande de Dieu sur l'autel, l'offrande a été consumée. Baal ne pouvait pas consumer son offrande. Je ne veux pas dire ceci, mais il faut que je le dise. Quand vous allez à une église et que vous acceptez leur credo et leur forme de baptême et que vous prétendez déposer là l'offrande de vous-même, peut-être vous relèverez-vous tout tremblant, en train de parler en langue, de courir d'un bout à l'autre de la salle, ou peut-être vous relèverez-vous en pleurant. Mais si cette offrande a été acceptée par Dieu, elle est consumée. Le monde est mort à vos yeux. Vous n'êtes plus, car nous nous regardons comme morts et ensevelis. Nous sommes morts et nous sommes cachés en Christ. Cachés en Christ. Et en plus, là, après que nous sommes morts, ensevelis et cachés en Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Vous êtes morts. Nos âmes sont placées sur son jugement divin. C'est l'airain. Lorsque nos âmes sont placées sur un autel du jugement divin, quelle était la peine? La mort. Et lorsque vous vous étendez sur l'autel de Dieu, où la peine de mort est prononcée sur le pécheur, comment pouvez-vous vous relever de là, encore vivant, dans le péché, si Dieu a accepté ce sacrifice? Est-ce clair maintenant? Vous mourrez. Vous êtes réellement consumé et vous êtes pétrifié. Il ne reste plus rien de vous, à part cette forme dans laquelle vous vous tenez. Comme le serpent d'airain, comme Christ, quand on l'a descendu de la croix, mort et froid. Vous êtes mort. Pourquoi ça? Vous êtes sur l'autel du jugement de Dieu. Quel est son jugement? Quand le juge a prononcé sa sentence, quelle est cette sentence? La peine qu'il prononce? La mort. Alors, quand vous placez votre âme sur son autel du jugement, pour vous, c'est la mort. Maintenant, vous saisissez? Oh, vous aurez beau vous lever de là et faire toutes sortes de choses. Vous aurez beau danser par l'esprit. Vous aurez beau pleurer comme n'importe qui le ferait. Vous aurez beau courir d'un bout à l'autre de la salle. Vous aurez beau adhérer à toutes les églises. Vous aurez beau faire comme bon vous semble. Là, je m'adresse aux pentecôtistes. Et ensuite, vous retournez là-bas et vous déshonorez la femme d'un autre. Vous détruisez le foyer d'un autre. Certaines d'entre vous, les femmes. Vous retournerez à ces choses, peu importe combien la parole vient à vous, pour que vous agissiez comme il faut et tout. Vous ne la reconnaîtrez pas. Vous ne laisserez jamais pousser vos cheveux, vous, les femmes, et tout ça. Vous ne vous habillerez jamais comme il faut. Vous serez toujours exactement comme le monde, parce que vous n'êtes pas encore morte à ce qui est du monde. Ces choses sont toujours vivantes en vous. Certains d'entre vous, les hommes, n'arrêteront jamais de boire, de fumer. Vous n'arrêterez jamais de convoiter les femmes impures qui s'habillent de façon indécente quand vous les verrez dans la rue. Au lieu de vous en détourner et de vous éloigner, vous continuerez quand même à les convoiter. Pourquoi ça? Vous êtes encore vivant à ce qui est du monde. Mais une fois que ce sacrifice a été accepté, vous êtes mort. C'est vrai. Vous saisissez ce que je veux dire? Vous comprenez de quoi je parle? Donc, votre âme est placée sur cet autel du jugement d'airain de Dieu. Puis, Dieu accepte le sac. Or, ça montre que vous ne l'avez pas encore reçu. Si vous êtes toujours vivant dans le monde, Dieu ne l'a jamais accepté. Maintenant, vous qui parlez de recevoir le Saint-Esprit et qui dites devoir attendre très longtemps pour ça, voici ce qu'il y a. Tant que Dieu n'a pas accepté ce sacrifice, qu'il n'a pas été présenté là, devant ses jugements, tant que son jugement n'a pas carrément tué vos sens, peut-être direz-vous, « Eh bien, je vais tourner la page. Ce n'est pas ça. Eh bien, je sais que je fumais. Je vais arrêter de fumer. » Là encore, ce n'est pas ça. Tant que Dieu n'a pas reçu ce sacrifice sur son autel d'airain, l'autel de son jugement, quel est son jugement? La mort. C'est ça, la peine. L'âme qui pêche, qui demeure dans cet état, mourra. Qu'importe ce que vous avez fait. Jésus a dit, « Plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, « Seigneur, n'ai-je pas fait ceci et cela ?» Il dira, « Retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. » Voyez, quand ce sacrifice est reçu par le feu et qu'il monte comme ça, que la fumée monte, vous vous élevez avec votre sacrifice dans les lieux célestes. Et alors, vous êtes scellés, séparés des choses du monde. Notre âme est sur son autel. Alors, qu'est-ce qui se produit en vous après que vous êtes mort là? Qu'est-ce que vous faites? Là, vous êtes conçu de nouveau. Vous êtes conçu de nouveau. Au départ, vous aviez été conçu dans l'iniquité. Maintenant, vous êtes conçu dans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est? La parole vivante. Amen. Oh, eh bien, ça change les choses, ça, n'est-ce pas? Maintenant, pour nous, la lutte est terminée. Après avoir vu ce qu'il faut faire, que se passe-t-il maintenant? Vous êtes conçus de nouveau dans la parole vivante. Qu'est-ce que c'est? La parole qui prend vie en vous. Vous commencez à voir les choses différemment. Là, ces choses que vous ne pouviez pas voir autrefois, maintenant vous les voyez clairement. Il y a quelque chose de différent maintenant. Là, toutes les Écritures s'enchaînent. Là, tout se raccorde parfaitement. Maintenant, voilà, quelque chose a commencé à se produire. Là, vous êtes mort à votre propre façon de penser. Et maintenant, vous êtes conçu parce que nous sommes lavés par l'eau de la parole. Pas vrai? Que fait-on un bébé dès qu'il naît? On le lave. Pas vrai? De même, dès qu'un homme est mort à lui-même, qu'il est né de Dieu, il est lavé par l'eau de la parole. Amen. Si elle dit « au nom de Jésus », vous dites « au nom de Jésus ». Si elle dit « il faut que vous naissiez de nouveau », vous dites la même chose. Tout ce que Dieu dit, vous êtes lavé par cette eau de la parole. Amen. Là, maintenant, vous êtes prêt pour la vie. Vous êtes prêt à être, à commencer maintenant. Vous voilà maintenant né de nouveau, né dans la famille de Dieu, avec un nouveau parent. Oui, monsieur. Autrefois, vos tuteurs étaient... Mais maintenant, vous avez des tuteurs pour aujourd'hui. Vous avez un nouveau parent. Vous ne pouvez pas naître sans avoir de parents. Donc, si vous êtes né dans la fraternité d'une église, c'est ce que vous avez. Si vous êtes né dans un credo, bon. Mais si vous êtes né en Dieu, conçu dans sa parole, vous avez un nouveau parent. C'est Dieu qui est prêt à faire connaître sa parole par vous, à la prononcer à travers vous. Oh, un nouveau parent. Ce parent-là, c'est Dieu. Il est maintenant prêt à prendre sa parole qu'il a déjà prononcée pour la placer en vous et lui faire prendre vie. Voyez, c'est maintenant, là, que vous recevez votre formation. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt maintenant à commencer votre formation, la formation de l'enfant. Ça, c'est la partie difficile. Quand vous pensez que vous devriez faire ceci et que la parole vient trancher et vous indiquer autre chose, eh bien, c'est ce qu'ils croient là-bas. Ce qu'ils croient, ça n'y change rien. Voici ce que Dieu a dit. vous devez vous occuper des affaires du Père. Maintenant, vous naissez de nouveau. Maintenant, vous vous mettez en règle. Vous êtes redressé. Vous avez un nouveau parent. Ainsi donc, si vous êtes né de nouveau et que vous avez un nouveau parent, vous avez une nouvelle nature. L'ancienne nature est morte. Et vous avez une nouvelle nature. Autrefois, vous alliez dans une direction. Et maintenant, vous allez dans une autre direction. Autrefois, vous alliez dans cette direction-ci. Vous descendiez. Et maintenant, vous allez dans cette direction-là. Vous montez. Vous affectionnez les choses d'en haut. Une nouvelle affection. Vous n'aimez plus les choses du monde. L'objet de votre affection, c'est Dieu. Ça vous est égal. Ce que les gens peuvent dire, qu'ils se moquent de vous et qu'ils disent que vous êtes une antiquité ou quelque chose du genre, ça vous est égal. Puisque vous êtes né d'en haut et que vous affectionnez les choses d'en haut, Dieu n'a pas honte de vous et vous n'avez pas honte de lui. C'est vrai. Alors vous lisez le chapitre 11 d'Hébreux, là. Je l'ai noté ici. Pourquoi, en fait, comment les gens de cette époque-là, comment ils agissaient? Ils erraient ça et là, dans les déserts, vêtus de peau de brebis, dénués de tout, et tout ça. Eux, dans le monde, n'étaient même pas dignes. Voyez, lisez cela, ça vous fera du bien. Vous verrez là ce qui arrive aux gens, quand leur nature est changée, ce qui se passe. Alors, quel genre de nature a-t-on à ce moment-là, frère Branham? Sa nature à lui. Si j'avais la nature de mon père, je ferais les choses que mon père a faites. Mais maintenant que je suis né de nouveau, tout dépend de qui est mon père. Si vous êtes simplement né dans l'Église, vous avez pour père l'Église, et vous pouvez l'appeler père si vous le voulez. Appelez-le comme bon vous semble, puisqu'il s'agit là de votre père. Mais si Dieu est votre Père et que vous êtes né dans la famille de Dieu, vous chercherez les choses qui se rapportent à Dieu. C'est vrai. Là, vous êtes l'enfant de Dieu. Votre nature, c'est la nature de Dieu. Alors, quand certains disent, « Oh, vous les entendez !» Certains disent, « Oh, dans notre Église, on croit que les jours des miracles sont passés. » Comment pouvez-vous croire que les jours des miracles sont passés quand vous avez en vous la nature même de Dieu ? Quand toute sa personne est un miracle, sa nature est un miracle, ses habitudes sont un miracle, son être entier est un miracle. Comment pouvez-vous être autre chose qu'un miracle? Votre nouvelle naissance est un miracle, votre nouvelle vie est un miracle, même votre nature est un miracle. Vous pouvez vraiment regarder en arrière et dire, ces choses-là sont mortes. Ce qui est vrai, c'est ceci. Voyez, vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création, certainement. Et quand les petits sont nés, c'était tous des poussins, sauf un. Celui-là, c'était un aigle. C'était une petite créature bizarre. Il était complètement différent. Mais voyez-vous, il était né dans une autre catégorie. Le sperme et l'ovule étaient différents. Ce qui a donné un oiseau différent. Sûrement, avait-il l'air étrange, se comportait-il d'une drôle de façon aux yeux des autres, mais il ne faisait que se comporter de façon naturelle, puisqu'il ne pouvait rien faire d'autre, car il était un aigle. Sa nature était celle d'un aigle. Alors, c'est tout ce qu'il pouvait être, un aigle. Il y en a beaucoup là-bas, dans ces dénominations, qui sont des aigles, en réalité. Mais il y a quelque chose qui cloche quand on les voit se prélasser dans la boue et les choses du monde. Voyez, ça, c'est leur occupation. Mais vous, allez les chercher. Un jour, la vieille mère aigle est venue. Et pensez-vous que cette poule aurait pu le maintenir plus longtemps seule? Elle avait beau glousser autant qu'elle le voulait. Elle avait beau dire, « Viens ici, mon chéri, j'ai trouvé quelque chose juste ici, viens !» Oh là là, lui, il affectionnait les choses d'en haut. Et il est allé à sa rencontre. Pour lui, fini les dénominations. On ne peut pas le détourner de cela. Et un homme qui est né de Dieu, on ne peut plus le faire retourner à la pourriture du péché. Il est mort. Il est né de nouveau. Il est une nouvelle créature. Il a la nature de l'aigle. Il lui faut s'élever dans les cieux, y monter. Il doit arriver là-haut, là où se trouve sa mère, son parent. Et c'est comme ça, vous, un homme qui croit, on le tente. « Oh, venez vous joindre à notre Église !» Eh bien, ça, c'est du fanatisme. Le jour, maintenant, quand cet aiglon qui se tenait peut-être là, a entendu le cri de cette mère. Il a promené son regard et a dit, « D'où est-ce que ça vient ?» Là, peut-être a-t-elle crié quelque chose comme ceci à l'aiglon. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et la mère a dit, « Les jours des miracles sont passés. Côte, 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 côte. Les jours des miracles sont passés. Il n'existe rien de tel. C'est du fanatisme, ça. » Oh là là. Mais on ne pouvait plus le retenir. Là, je peux l'entendre dire, « Maman, comment faire pour arriver là-haut ?»« Bah, simplement des ailes, mon chéri. C'est tout ce que tu as à faire. Tu es un aigle. Marche par la foi, tout simplement. Comment est-ce que ça arrivera, maman ? Je ne sais pas. Continue simplement à marcher. » Le voilà qui arrive. Au premier petit battement de ses ailes, il se pose sur un piquet de clôture. Il a tout de même réussi à atteindre cette hauteur-là. Elle dit, « Allez, viens, je vais te rattraper. » C'est ça. Une nouvelle nature, un nouvel être, une nouvelle création, la nature de votre Père. Et vous croyez et aimez toute parole qu'il a prononcée. Toute parole d'homme est un mensonge. Toute parole contraire à cette parole. Ceci, c'est la parole de Dieu. Voyez, c'est la Bible qui a raison. Peu importe ce que l'Église dit, pour vous, c'est quand même la Bible qui a raison. Parce que votre nature a été changée. Or, si vous avez pour père une Église, vous croirez en cette Église qui est votre père. Mais si vous avez Dieu pour père, vous croirez à la parole de Dieu. Si vous avez l'Église pour père, vous y croirez, puisque vous partagez sa nature, car voilà votre père. Mais si Dieu est votre père, vous croirez la parole de Dieu. Si vous êtes une Église, vous croirez sa parole. Vous croirez la parole de l'Église. Vous serez ce que dit l'Église. Mais si vous êtes né de nouveau, vous croirez ce que Dieu dit, car Dieu est votre père, pas le monde ou les credos d'une Église. Ça me rappelle quelque chose. On raconte qu'un jour, dans une cour, un canard suivait quelques poulets. Et pour ces poulets, vous savez, ce canard était un drôle de petit individu. Il était plutôt mal équilibré, vous savez. Il y avait un grand bec, vous savez. Mais même s'il était mal équilibré, il avait ce bec-là dans un but. Et j'imagine que, parfois, le chrétien a un peu l'air de ça. Il devient un peu fanatique, mais c'est dans un but que ça se passe comme ça. Voyez, alors lui, ça paraissait vraiment étrange, comme il traînait partout avec les poulets, et il pouvait, les dindons et tout ça, ils avaient vraiment de tout petits becs, et ils vaquaient à leurs occupations, ils avaient une constitution différente de celle de ce canard. Un jour, la mère l'a mené, lui, et la bande de poulets là-bas. Il était toujours très en retrait, vous savez, en quelque sorte. Il ne parlait même pas comme eux. Son langage était différent. Il n'arrivait pas à se comprendre. C'est pareil pour le chrétien quand il est né de nouveau. Voyez, il sort d'un œuf différent, c'est tout. Voyez, peut-être a-t-il, je crois qu'il y en a beaucoup là-bas, dans ces églises dénominationnelles, qui sont d'authentiques canards, mais qui ont une poule comme guide. C'est vrai. Alors, ils ne saisissent tout simplement pas cela. Ce que je dis est assez vexant. Là n'est pas mon intention, mais j'essaie de vous faire remarquer quelque chose. Un jour, elle l'a mené un peu trop loin, là-bas, derrière la grange. Il y avait de l'eau qui coulait là, derrière la grange. Oui, il y avait une source qui coulait, un ruisseau. Et il continuait à avancer là, en se demandant ce qui se passait, vous savez, alors qu'il suivait la poule. Et, eh bien, il n'aimait même pas les choses qu'il mangeait. Ce n'était pas à son goût. Il y avait quelque chose qui clochait dans ces vieilles choses qu'il faisait. Et au bout d'un moment, il a senti un souffle. Ça sent très bon. D'où est-ce que ça provient ? Oh, ce petit souffle du ciel. Sentez ce petit souffle de quelque chose de rafraîchissant, d'une prédication qui vous convient, qui pénètre profondément. Vous sentez la parole s'ancrer. Un rayon de soleil céleste. Il s'est dit, oh, pour une raison ou pour une autre, on dirait que ce souffle que j'ai senti cadre bien avec ma nature. Il l'a respiré de nouveau. Ça se trouve quelque part. Eh bien, on ne peut pas m'en dissuader. Ça se trouve quelque part. Je sais que quelque part, il y a une chose à laquelle j'appartiens. Pas à ce credo. Voyez, vous savez ce que je veux dire? Il a senti l'odeur de l'eau et sa nature était celle d'un canard. Donc, le canard et l'eau vont de pair, tout simplement. C'est ainsi que le croyant et Dieu vont de pair. Puis, il en a pris une autre grande bouffée. L'odeur était plus forte. Après un moment, le vent s'est mis à souffler, comme un vent impétueux, vous savez. Une brise qui émanait directement de l'eau s'est mise à souffler sur lui. Il ne pouvait plus y résister. Il a descendu la colline en se dandinant, vous savez, et en faisant coin coin, coin coin, coin coin. Ce petit bec dressé en l'air, vous savez, il avait senti l'odeur de l'eau. La vieille poule a dit « Espèce de fanatique, reviens ici !» Ça ne servait à rien du tout. Il avait déjà senti l'odeur de l'eau. Il se dirigeait vers l'eau. Il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Un vrai chrétien ne veut rien avoir à faire avec le monde. Ils ne veulent pas vivre ici au hasard, en se demandant où ils en sont. Aujourd'hui, ils sont méthodistes, demain baptistes, puis presbytériens, puis pentecôtistes, ainsi de suite. Oh frère, ça, c'est pitoyable. Un vrai chrétien veut avoir la fraîcheur de l'esprit, la fraîcheur de Dieu dans sa vie, quelque chose qui fait de lui une nouvelle création. Dès qu'il a la possibilité d'accéder à cela, il roulera sur des terrains enneigés ou quoi que ce soit d'autre pour avoir cela. Il partira parce que c'est un canard dès le départ. Oui, pas un credo. Non, 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 non. Et si vous aimez encore les choses du monde, vous êtes séduit. Votre sacrifice n'a pas encore été accepté. Votre nature n'a pas été changée. Maintenant, savez-vous ce que naître de nouveau signifie? Voyez-vous, votre nature est changée. Vous devenez une nouvelle créature. Vous devez d'abord mourir, puis naître de nouveau. Je sais que je dois terminer, mais donnez-moi quelques minutes. Je vais survoler ces textes. Voyez, voyez. Si vous aimez encore le monde et prétendez être né de nouveau, qu'importe ce que vous avez fait, vous pouvez avoir versé des larmes, vous pouvez avoir été parcouru de frissons. Tout ça, c'est très bien. Je n'ai rien contre ces choses. Les chrétiens versent des larmes et sont parcourus de frissons. Et vous dites, frère Branham, j'ai parlé en langue et c'est peut-être très bien. Il se peut que ce soit même une très bonne chose. Je vois là une petite femme qui est venue me voir il n'y a pas longtemps. Elle avait eu une vision ou un songe et j'en ai reçu l'interprétation. C'était quand même assez difficile d'aller dire à cette petite femme de pasteur pentecôtiste qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit. Ah oui, mais elle ne l'avait pas, mais elle l'a reçu par la suite, voyez. Oui, c'est différent, voyez. En effet, il ne s'agit pas de parler en langue, il ne s'agit pas de danser par l'esprit. On ne peut pas baser cela sur aucune de ces choses-là. Il s'agit d'une mort et d'une naissance, d'une nature changée, d'un tempérament changé. Les choses anciennes sont mortes, les choses nouvelles sont nouvelles. Le monde est mort et Dieu est nouveau. Dieu est votre vie et le monde est mort à vos yeux. Là, vous saisissez? Très bien. Maintenant, écoutez. Je vais devoir être un peu tranchant pendant un petit instant, vous savez, pour enlever les ronces du chemin. Ces femmes et ces hommes qui ne veulent pas suivre la parole de Dieu et son enseignement, après avoir professé être nés de nouveau, il y a quelque chose qui cloche là. Je vais m'adresser aux femmes un petit instant. Si une femme qui sait que la parole de Dieu condamne le fait de se couper les cheveux et de porter des shorts, de porter des pantalons, de s'habiller de façon indécente, n'a pas assez de décence pour se laisser pousser les cheveux et porter des vêtements qui ressemblent à ceux d'une chrétienne, elle est séduite. Peu importe ce que vous avez vécu, vous pouvez avoir parlé en langue, comme si on versait des poids sur une peau de vache desséchée. Vous pouvez avoir dansé par l'esprit, au point de faire trembler tout le bâtiment. Ça n'a absolument rien à y voir. Cela montre que l'amour du monde est encore en vous. Alors que Dieu condamne ces choses-là, il a dit, ce n'est pas... Une femme doit porter de longs cheveux. Et la nature elle-même vous enseigne que l'homme doit porter les cheveux courts, car Dieu est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Et si une femme se coupe les cheveux, elle déshonore son chef, qui est son mari. Si un homme se laisse pousser les cheveux, là, il déshonore son chef, qui est Christ. Voyez ? Que les femmes soient vêtues d'une manière décente, propre, distinguée. Voyez ? Et alors, sans qu'on ait la simple décence de faire ces choses, on dit « Gloire à Dieu, Alléluia, j'ai parlé en langue, Alléluia, gloire à Dieu !» Cela montre que l'esprit que vous avez là est faux. Il acceptera la parole tout le temps s'il a la nature de la parole. Et la parole est chair. La parole était Dieu. Et la parole est Dieu. Et les paroles qui sont en vous vous font devenir un fils ou une fille de Dieu, quelqu'un qui descend de lui, qui croit sa parole. Je ne crois pas à cette histoire d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alléluia! Peu m'importe combien vous essayez d'expliquer cela, je crois mon pasteur. Allez-y, c'est lui votre Père. Mais si Dieu est votre Père, vous vous alignerez sur la parole de Dieu. Prédicateur, plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, « Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons par ton nom ?» Les prédicateurs, « N'ai-je pas fait beaucoup de miracles ?» Les évangélistes sur le champ de mission, « Retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité, des enfants illégitimes. » C'est vrai. Si vous êtes nés de Dieu, vous êtes lavés dans les eaux de la parole, séparés des choses du monde, et vous croyez Dieu, vous êtes mort à votre façon de penser, mort à vos idées, mort à tout, sauf à la parole de Dieu. Et elle vit en vous, œuvre à travers vous, prouvant qu'il s'agit bien de la parole de Dieu. Vous dites, je suis mort au monde, frère Branham, et vous niez la parole de Dieu? Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Nous en venons maintenant à ce que signifie réellement être né de nouveau. Voyez, vous êtes toujours aussi colérique, toujours aussi malveillant, arrogant. Quelqu'un dit quelque chose contre vous et vous voilà prêt à vous battre. Et après ça, vous dites être né de l'Esprit de Dieu? Non, l'Esprit de Dieu n'agit pas ainsi. Non, l'Esprit de Dieu est humble, doux, gentil, patient. Voilà Dieu, aimable, bon, clément. Voilà ce qu'est l'Esprit de Dieu. Oh oui, mais les gens restent attachés à leur dénomination, parlent en langue, prophétisent et font toutes sortes d'œuvres. Jésus a dit qu'il ferait ces choses, ayant l'apparence de la piété. Ils restent attachés à cette dénomination parce que c'est leur père. Ils sont nés de ce Père dénominationnel. Mais si vous êtes né de Dieu, ceci est votre Père. Il est la parole. La parole. Peu importe combien de sensations vous avez, vous demeurez un enfant de Satan tant que vous n'êtes pas mort au monde et que vous n'êtes pas vivant en Christ. Écoutez, on va faire vite là. Une âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la mort ne la change pas. J'avais noté ici beaucoup de références de l'Écriture portant sur ce point que je voulais commenter. Ce qu'est une âme? Qu'est-ce qu'une âme? C'est vous. Vous êtes une âme, la partie à l'intérieur de vous. Et quand vous mourrez, quel que soit l'état de cette âme, c'est ainsi qu'elle part. Elle part pour sa destination. Vous ne pourrez pas la faire revenir de là, peu importe ce que vous seriez prêt à faire pour cela. C'est ici que cette âme doit être changée, naître de nouveau. Vous dites, qu'en est-il du Saint-Esprit, frère Branham? Le Saint-Esprit vous baptise dans le corps, pour le service. Mais vous croyez pour avoir la vie éternelle. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voyez, vous êtes ensuite baptisé dans le corps par le Saint-Esprit pour les manifestations des dons et ainsi de suite. Mais vous croyez pour avoir la vie éternelle. Celui qui croit a la vie éternelle. Et quand vous croyez, c'est quand vous êtes mort et que vous naissez, régénérez une nouvelle créature. Très bien. L'âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, souvenez-vous, la mort n'a aucun effet sur elle. La mort ne fait que l'emmener à sa destination. Vous saisissez? Et si le monde et l'amour du monde s'y trouvent encore, elle mourra avec vous puisque le monde doit mourir. Dieu a condamné le monde, c'est-à-dire l'ordre mondial. Dieu l'a condamné et il doit mourir. Et si ce monde est en vous, vous mourrez avec ce monde. Oh là là, je ne vois pas comment ça pourrait être plus clair. Voyez? Et si elle est bonne, née de Dieu, elle ira forcément à Dieu. Si elle est du monde, elle y restera pour périr avec le monde. Si elle est de Dieu, elle vivra avec Dieu. Que vous soyez instruit ou sans instruction, que vous soyez instruit ou illettré, si le monde s'y trouve encore, il faudra qu'elle meure. Si le monde est dans votre âme, et que votre désir se porte vers les choses du monde, vous périrez avec le monde. C'est clair ça, n'est-ce pas? Ça devrait l'être. Vous faites partie de ce monde qui est mort. Et puisque le monde est mort, vous êtes mort avec le monde. Mais si vous êtes né de nouveau, vous êtes vivant avec Christ et vous affectionnez les choses d'en haut, non pas les choses du monde. Mais si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous devenez une partie de Dieu et vous êtes éternel avec lui. Alors, la mort ne peut pas vous toucher quand vous êtes né de nouveau. Vous êtes éternel. Vous êtes changé d'une créature du temps en une créature de l'éternité. Vous êtes changé. Passé de la mort à la vie éternelle. C'est de cela que je parle. De la mort éternelle à la vie éternelle. Si vous êtes du monde, vous mourrez ici avec lui. Si vous aimez, la Bible déclare dans Jean, si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Vous ne pouvez pas aimer le monde. Jésus a dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu et Mammon. Mammon, c'est le monde. Vous ne pouvez pas aimer à la fois le monde et Dieu. Et celui qui dit qu'il m'aime et qui ne garde pas ma parole, ça, c'est la Bible, est un menteur. Et la vérité n'est même pas en lui. Voilà. Oh, Branham Tabernacle, et vous tous, braves gens, faisons l'inventaire. C'est le nouvel an. Commençons. Faisons quelque chose. Faisons sortir de nous les choses du monde. Si elles sont toujours là, débarrassons-nous-en. Oui, monsieur. Très bien. Les gens d'aujourd'hui, je dois me dépêcher. Les gens d'aujourd'hui prennent toutes sortes d'esprits. Ils vont là-bas et prennent l'esprit d'une église. Ils prennent même des esprits qui se disent « Esprit de Dieu, né de nouveau ». Mais ils nient la véracité de la parole de Dieu. Pouvez-vous imaginer l'Esprit de Dieu nier sa propre parole? Vous, les catholiques, je veux dire les catholiques romains, pouvez-vous réellement prétendre que vous êtes né de l'Esprit de Dieu alors que vous acceptez ces dogmes qui sont contraires à la Bible et qui nient la parole de Dieu et prétendent que vous êtes, que vous avez en vous l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a écrit cette Bible, la nierait-il? Ce serait comme si je racontais quelque chose et qu'ensuite je me levais là pour mentir au préjudice de ce que j'avais dit, comme si Dieu disait quelque chose, puis faisait volte-face et mentait à ce sujet. Alors que la Bible déclare, il est impossible que Dieu mente, car il est la source même de toute vérité. Vous, les méthodistes, les baptistes, qui êtes baptisés dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, et qui savez maintenant ce qu'il en est, vous avez votre Bible. Vous qui adhérez à une église par une simple poignée de main, vous qui apportez votre lettre d'affiliation d'une église à l'autre, vous prétendez ensuite être né de nouveau de l'Esprit de Dieu? Comment pouvez-vous faire ces choses et ensuite regarder la parole de Dieu en face et dire que vous êtes un chrétien né de nouveau? Quand vous êtes mort à l'église, vous êtes mort au credo, vous êtes mort au monde, vous êtes mort à tout sauf à Dieu. Et Dieu est la parole. Voilà. Voyons un peu. Ils prennent toutes sortes d'esprits. Oh, ils ont des esprits d'église. Ils ont des esprits en tout genre. Maintenant, écoutez attentivement. Les prophètes. La parole de Dieu vient aux prophètes. La Bible le dit. Maintenant, pour conclure, j'ai juste deux ou trois commentaires, plus ou moins, que je veux présenter, puis je vais m'arrêter. La parole du Seigneur est venue aux prophètes. Qu'est-ce qui est venu au prophète? Est-ce la parole de l'Église qui est venue au prophète? Est-ce la parole d'un credo qui est venue au prophète? La parole du Seigneur. Qu'est-ce que c'était? Le prophète révélait la parole de Dieu. Voyez, c'est ça des prophètes, de véritables prophètes. Maintenant, on a de faux prophètes. On va parler d'eux dans quelques minutes. Mais le vrai prophète, la vraie parole, est venu au vrai prophète. Il n'aurait pas pu en être autrement. Alors, ce n'est pas un credo qui est venu au prophète. Ce n'est pas une dénomination qui est venue au prophète. Non. Mais c'est la parole du Seigneur qui est venue au prophète. Et c'est lui qui l'a révélé au peuple. Le vrai prophète avait la vraie parole. Comment éprouver un vrai prophète quand il a la vraie parole? Donc, s'il ne s'agit pas d'une vraie parole, c'en est un faux, à coup sûr. S'il dit quelque chose de contraire à cette parole, et cette parole, c'est la parole de Dieu, que toute parole de prophète soit reconnue pour mensonge, et que la parole de Dieu soit reconnue pour vérité. Et si cette parole qui vient du prophète, c'est la parole de Dieu, il s'agit alors d'un vrai prophète, parce que la parole vient au prophète, au vrai prophète. Il y en a toujours eu des faux. Les vrais prophètes, la vraie parole. Les faux prophètes, une fausse parole. Nos credos, nos dénominations. Adhérez à ceci, dites ceci, croyez ceci, faites ceci. Mais la vraie parole vient au vrai prophète et il vous annonce la vraie parole. Si vous suivez cette vraie parole, vous aurez une vraie expérience de la parole parce que la parole est faite chair en vous et vous devenez fils de Dieu. La parole de Dieu provient directement de Dieu pour entrer en vous parce que vous êtes de sa nature, son esprit est en vous et vous ferez les œuvres de Dieu. Alléluia! La Bible dit... Oh là là, les faux prophètes apportent de fausses paroles. Que font-ils? Ils ont de fausses sensations. Les faux prophètes conservent juste assez de la vraie parole pour être faux. Autrefois, ils ne le faisaient pas. Mais la Bible dit, si vous voulez noter un passage de l'Écriture qui appuie ça, c'est 2 Timothée 3. Voyez, les faux prophètes ont une quantité suffisante de vraies paroles pour fausser le tout. En effet, la Bible dit qu'ils auraient l'apparence de la piété. Pour avoir l'apparence de la piété, ils doivent en avoir une partie qui soit la vérité. L'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. La force de quoi? De vous amener à mettre votre vie en ordre, d'être différent, de servir Dieu, de ne pas aller dans des soirées dansantes et dans ces choses du monde que la Bible condamne, de ne pas vous couper les cheveux. Bon, voilà ce que les prophètes disent. Ça ne change rien, ça. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, je pense avoir déjà mentionné cela ici, je ne sais pas. Il m'a dit, pourquoi donc ne laissez-vous pas ces femmes et ces hommes tranquilles? Il a dit, eh bien là, les gens croient que vous êtes un prophète. J'ai dit, je n'en suis pas un, mais les gens croient que vous en êtes un. Pourquoi ne leur enseignez-vous pas comment recevoir des visions, comment faire les œuvres de Dieu, des choses comme ça? J'ai dit, comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'ils ne connaissent même pas leur ABC? Voyez, comment peut-on sortir un enfant de la maternelle et lui donner une instruction universitaire le jour même, lui enseigner les racines carrées? Comment peut-on le faire alors qu'il ne sait même pas ce que signifie ABC? Vous savez ce que signifie ABC? Toujours croire Christ. C'est vrai, ne croyez pas l'Église, ne croyez pas le credo, ne croyez pas leur doctrine. Croyez Christ! Pourquoi? Le connaître lui, c'est la vie. Pas vrai? Ce n'est pas de connaître son credo. Ce n'est pas, il n'a aucun credo. Ce n'est même pas de connaître sa parole. Ce n'est pas de connaître sa parole. Vous devez le connaître lui comme votre sauveur par la nouvelle naissance. Comme Jésus l'a dit à Nicodème, si tu ne peux croire les choses terrestres que je te dis, comment pourrais-tu croire les choses célestes? Comment peut-on croire les choses spirituelles qui sont du domaine de l'esprit, connaître et voir des visions et des choses comme ça, établir une école sur cette base-là, alors que les gens ne croient même pas les choses terrestres? Ils n'arrivent même pas à croire pour s'habiller correctement. Ils n'arrivent même pas à croire pour arrêter de fumer et arrêter de mentir, renoncer à leur tempérament colérique et tout ça, pour faire toutes ces choses, ou bien pour arrêter de convoiter. Comment peut-on enseigner aux gens à entrer dans l'esprit alors qu'ils ont encore toutes ces choses-là accrochées à eux? Oui, oh là là, les faux prophètes ont de fausses paroles, des credos, des dénominations, des sensations. Oh Dieu soit béni, voici tout ce que vous avez à faire. Vous voulez porter le vêtement d'Élie? Gloire à Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est vider votre esprit. Ne pensez à rien et dites, oh, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Le diable le fera à coup sûr. Et là, vous vous appuyez là-dessus. Ouh, ça m'a traversé tout le corps, frère Branham. Je l'ai senti. Ouh, gloire à Dieu, alléluia. En sautillant comme ça. Oh, je l'ai reçu. Et vous vivez comme vous le faites. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez, pas une sensation. Oh, frère, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, il vous suffit de vous agenouiller à l'autel et de dire « Gloire, 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 gloire » jusqu'à ce que vous parliez en langue. Ah oui? et vous ressortez, mener n'importe quel genre de vie, mentir, voler, lorsqu'on vous parle du baptême au nom de Jésus-Christ, ça c'est du fanatisme. Mon assemblée enseigne autre chose. Et vous dites que vous êtes né de nouveau, lavé par les eaux de la parole, il y a quelque chose qui cloche quelque part, voyez? Vous croirez chaque parole telle qu'elle est écrite ici. Nous n'avons pas besoin, et nous ne... La Bible déclare qu'elle ne peut être un objet d'interprétation particulière. Dieu l'a interprétée, et elle est comme ça. Voilà. La parole, sa parole ici. La Bible ne dit-elle pas dans deux... Je crois que c'est dans deux pierres. La Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. Certainement. Non, aucune interprétation particulière. Elle est écrite en conformité parfaite avec sa signification. Exactement comme ça. Croyez-la exactement comme elle est écrite ici. Elle produira les mêmes résultats.
Now, false teachers will bring false...
Donc, voilà. Les faux docteurs produiront de fausses naissances. Les vrais prophètes apporteront la parole. La naissance de la parole, Christ. Les faux prophètes produiront une fausse naissance. La naissance d'église, la naissance de credo, la naissance de dénomination. Et voilà où vous en êtes, mes frères pentecôtistes, de faux sang ou des sensations. Et vous dites à quelqu'un qu'il a le Saint-Esprit parce qu'il parle en langue. J'ai vu des démons parler en langue. Des crayons qui avaient été posés là, écrire dans des langues inconnues. Ça ne veut rien dire du tout. Voyez, il faut que ce soit une vie. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Frère Branham, croyez-vous au parler en langue? Oui, monsieur. Croyez-vous au fait de pousser des cris? Oui, monsieur. Si je suis chrétien, je dois croire à ces choses. Je crois la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas là de vie pour confirmer tout ça, un grand prétentieux qui se présente là, gloire à Dieu, alléluia. Et vous me dites que ça, c'est Christ? Christ était humble, doux et aimable. Vous allez dans une ville et, oh, vous devez être tiré à quatre épingles, vous savez, et tout doit être parfaitement impeccable. Pas un seul faux pli sur votre complet, et vous devez avoir ce qu'il y a de mieux. Autrement, vous ne viendrez pas. On doit vous garantir un certain montant d'argent. Sinon, vous ne pouvez pas tenir de réunion. Oh là là, toutes les dénominations doivent vous passer la main dans le dos. Aucune d'elles ne lui a passé la main dans le dos, à lui, car il était la parole. C'est vrai. Les faux conservent juste assez de vrai pour se donner l'apparence de la piété. Et écoutez, maintenant je vais dire quelque chose ici. Je veux que vous écoutiez. Ce genre de fausse conception, vous savez ce qu'est une fausse conception, amène des millions de gens à une fausse naissance. Les faux docteurs amènent les gens à croire à une sensation. Parce que vous avez été secoué de partout, vous l'avez. Oh, parce qu'une sensation vraiment bizarre vous a traversé le corps. Vous avez vu des lumières devant vous, et vous êtes devenu aveugle, et vous avez titubé. Ça, c'est que vous avez été revêtu du manteau d'Élie. C'est vrai, vous l'avez. Oh, savez-vous ce que vous êtes? Vous êtes un fils de Dieu manifesté. Mais dans quel état vous retrouvez-vous? Vaincu. C'est vrai. Gloire à Dieu, je suis allé là-bas un soir, et j'ai eu un songe. Oh oui, 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 voyez. « Oh, j'ai vu ceci et cela. » Oui, oui, oui. Et vous, ne croyez-vous pas au songe? Oui, monsieur, certainement. Mais si ce songe ne concorde pas avec la parole de Dieu, il est faux. Ceci, c'est la vérité. Restez là-dedans. Oui, monsieur. Ils amènent des millions de gens à une fausse naissance. Réfléchissez à ça. Il y a un article de journal que je vous laisse apporter ici, où il est dit que le père œcuménique de toutes les églises orthodoxes grecques et orthodoxes s'est entretenu avec le pape Jean XXII, et qu'il a déclaré, nous ne verrons peut-être pas cela dans notre génération, mais une grande fraternité unissant protestants et catholiques est en train de voir le jour. J'ai pensé, gloire à Dieu, quelqu'un l'a découpé dans un journal et m'a écrit ça. Je crois que c'était frère Norman ou quelqu'un d'autre. Il a dit, frère Branham, il est plus tard que nous le pensons. Considérez aujourd'hui le ministre de la guerre et, oh, toutes ses diverses fonctions, et le président, ainsi que cette nation. Tout est sous l'emprise catholique. Écoutez, vous dites, eh bien, ils sont chrétiens. Être chrétien, c'est être comme Christ, avoir son esprit. Pas vrai? Là, je vais manquer un peu de délicatesse, mais je tiens à dire ceci. Si vous donnez à un porc le nom de brebis, est-ce que ça en fera une brebis? Voyons. Si vous dites, cochonnet, j'en ai marre que tu sois un cochon, je veux un agneau, alors je vais t'amener ici et je vais te frotter de la tête aux pieds. je vais te laver les dents, je vais te brosser les poils et je vais faire de toi un petit agneau. Je vais t'attacher un petit ruban rose autour du cou et tu vas devenir un petit agneau au lieu d'un cochon. Même si vous vous approchez, dites « agneau, agneau, agneau », il ira toujours « coin, coin ». Relâchez-le dans une porcherie. Il va manger toutes les saletés qu'il trouvera. C'est vrai! Il ne s'agit pas de l'asperger. Il ne s'agit pas de le plonger dans l'eau. Il s'agit d'une mort et d'une naissance. Oui, monsieur. Vous dites, je vais te nourrir exclusivement de luzerne. Je vais te donner de la nourriture de brebis. Continuez à le nourrir de luzerne. Mais il est toujours un cochon. Voilà tout. N'est-ce pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Mais bien sûr, c'est un cochon, parce qu'il a la nature d'un cochon. Et si vous aimez le monde ou les choses du monde, vous êtes encore un cochon. C'est vrai. Il faut la puissance de Dieu pour transformer votre âme. Que le cochon meure. Déposez vos habitudes de cochon sur l'autel. Placez-vous là-dessus et que le sacrifice de Dieu soit, ou que le feu du jugement descende et vous consume en tant que cochon et vous fasse renaître en tant qu'agneau. Là, vous ne mangerez plus de saleté. Vous ne le pourrez pas. Votre système digestif ne digérera pas ces choses. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Ça ne va certainement pas en faire un cochon que de dire, ou en faire un agneau que de dire que c'est un agneau. Et c'est pareil pour une personne dont on dit qu'elle est chrétienne, sur la base d'un credo ou d'une sensation. Vous dites, gloire à Dieu, frère Branham, ce soir-là, j'ai dansé par l'esprit toute la soirée. J'ai parlé en langue. Oh là là, frère Branham, maintenant je m'adresse aux pentecôtistes. J'ai dansé par l'esprit. Oh, j'ai eu des sensations et tout ça. Mais je vous le dis tout de suite, ne venez pas me parler de cette histoire du nom de Jésus. Vas-y, cochonnet, tu es toujours un cochon. Voilà tout. Mes brebis entendent ma parole. Je dis, mais mon frère, regarde, trouve-moi un seul endroit où les gens ont déjà été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la Bible. Ça m'est égal, ça. Alléluia. Je ne veux rien savoir de cette histoire de Jésus seul. Qui a parlé d'une histoire de Jésus seul? Je parle de la Bible. Les Jésus seuls sont un groupe de credo et un groupe de dénomination. Il n'y en a pas un qui puisse dire quelque chose contre l'autre, puisqu'ils sont tous les deux là-dedans. Mais je parle de chrétiens purs, authentiques, à 100%, qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu et qui ont les gouttes de la rosée du ciel dans leur vie. C'est de ça que je parle. Si vous êtes méthodiste et que vous avez cela, amen. Tout ce qu'il vous faut, c'est qu'on vous dirige vers la parole et vous suivrez cela comme ce canard qui s'achemine vers l'eau. Voyez ? Exactement, c'est vrai. Les gens aujourd'hui veulent des raccourcis. Ils ne veulent pas. Ils pensent qu'on reçoit la chose en un rien de temps. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Ce soir, ils sont dans. Ils sont là-bas, dans. Comme ces gens qui ont. Comme certaines personnes dont je pourrais mentionner les noms. Mais je ne veux pas le faire parce qu'on est en train d'enregistrer. Mais ils sont dans des boîtes de nuit ce soir. En train de gratter la guitare. Et demain matin, ils se tiennent à l'église quelque part, en train de gratter la même guitare. De la souillure. La Bible dit, dans Ésaïe, au chapitre 28, « Toutes les tables sont pleines de vomissements. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, et le cochon à son bourbier. » Ils font la même chose. Pourquoi? Ils sont toujours des chiens et des cochons. C'est ce qui les fait retourner au bourbier et au vomissement. Vous êtes toujours. Ils ne sont pas nés de nouveau. S'ils sont nés de nouveau, ils sont de nouvelles créatures. Savez-vous? Prenez un vieux corbeau. Il ne fait. Vous aurez beau tout essayer. Vous pouvez le peindre de la même couleur vert olive que la colombe. Tout aussi gris que la colombe. Blanc. Le peindre partout. Il est toujours un corbeau à l'intérieur. Voyez? Ils sont toujours aussi mauvais. C'est exactement la même vieille buse, un charognard qui mange les choses mortes de la terre. C'est vrai. Mais savez-vous, la colombe, elle n'a même pas besoin de prendre de bain. Oh, alléluia! Le corps de la colombe, parce qu'elle est une colombe, produit une huile qui passe au travers de son plumage, qui la garde propre en tout temps, puisque ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Oh, pourquoi? La buse dit... Mon corps aussi. J'ai mis un peu d'eau bénite dessus. Mon frère, ça a réglé l'affaire. Non, ça ne l'a pas réglé. En effet, ça doit venir de l'intérieur vers l'extérieur. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une naissance. Dieu soit béni. Je vais à l'église tout autant que vous. Alléluia. Mon église est tout aussi bonne que la vôtre. Alléluia, nous. Très bien. Espèce de buse. Voyez, c'est vrai. Voyez. Mais c'est à partir de l'intérieur que la colombe est huilée. Il y a une certaine glande dans la colombe ou le pigeon, qu'on ne trouve dans aucun autre oiseau. La colombe est huilée à l'extérieur, elle se garde propre en tout temps. Elle n'a pas besoin de se garder propre elle-même. Il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui la garde propre. Oh, Sœur Way, alléluia, quelque chose à l'intérieur d'elle la garde propre. Vous dites, je sais, j'ai adhéré à l'église la semaine dernière. J'aimerais vraiment prendre un verre avec toi, mais ce cigare sent si bon. Oh, ma sœur, je sais que je suis une antiquité. Maintenant, je suis obligé de laisser pousser mes cheveux. C'est affreux, n'est-ce pas? Tu sais, ces jolies petites robes que je portais autrefois, et tout le monde faisait... Maintenant, je ne peux plus les porter. Tu sais, j'ai adhéré à l'église la semaine dernière. Misérable Locke. Toute l'eau bénite du monde ne suffirait pas à vous purifier. Mais mon frère, quand vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, cette chose vous lave de cela en tout temps. Vous restez simplement tranquille, elle vous lave. Vous n'avez pas besoin de dire au mouton, tu dois absolument fabriquer quelque chose. C'est ça le problème avec les pentecôtistes aujourd'hui. C'est ça le problème avec la chrétienté dans son ensemble. On essaye de fabriquer quelque chose. On ne demande pas au mouton de fabriquer de la laine. Il porte de la laine. Vous portez les fruits de l'esprit. Vous ne dites pas, gloire à Dieu, je dois en avoir le visage cyanosé. Je dois faire ceci et je dois avoir des sensations. Je dois danser par l'esprit. Et voilà, je l'ai. Non, non, ah non. Il suffit de naître de nouveau. Et alors, tout cela se fera tout seul. Vous n'avez pas besoin de dire, dois-je étudier toute la nuit? Dois-je faire ceci? Dois-je faire cela? Dois-je adhérer à ceci? Dois-je réciter ce credo? Dois-je faire des pénitences? Non, non. Mourez, c'est tout. Voyez, naissez de nouveau. Et la chose vient de l'intérieur et s'occupe de l'extérieur. Voyez, les asperger avec un peu d'eau et les laver, c'est comme de transformer un cochon en un agneau. C'est impossible. Mais si à l'intérieur, il est un agneau, il ne sera plus jamais sans cochon. Voyez, ces remarques manquent de délicatesse. Mais je n'ai pas d'instruction. Je dois m'exprimer à ma façon. Vous savez, là, en lisant la vie de Jean-Baptiste, l'autre jour, je pensais à ce qu'il avait dit. Comment il les avait appelés? Race de vipères! Pourquoi? Il avait grandi dans le désert. Voyez, ils savaient ce qu'elles étaient. Vous tapez du pied, elles filent se cacher. Race vipère, aussi. La cognée est mise à la racine de l'arbre. Arbre, vipère, cognée. Ils faisaient allusion aux choses qu'ils connaissaient. C'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu, par les choses qu'on connaît. Prenez un cochon et une brebis, il n'y a pas le moindre rapport. Vous ne pouvez pas faire, vous aurez beau faire une toilette complète à ce petit cochon. Faire tout ce que vous voudrez, il est toujours un cochon. Pour devenir un agneau, il doit renaître. Des raccourcis. Ce soir, après avoir été quelque part, aujourd'hui, à se conduire mal, oh là là, demain, ils veulent prêcher. Et les pentecôtistes les laissent faire ça. Oui, ils veulent un raccourci pour aller au ciel. Alléluia! Il me suffit de m'agenouiller ici et de ne penser à rien du tout et de dire « Alléluia! Alléluia! J'ai le vêtement d'Élie. Demain, j'irai chasser les démons. Alléluia! Alléluia! Je l'ai reçu. Gloire à Dieu, j'y vais !» Ils veulent un raccourci pour aller au ciel, en apportant tout ce qu'ils peuvent du monde. Vous ne pouvez rien apporter de tout ça. Il n'existe pas de raccourci. Il vous faut passer par le calvaire. Il vous faut passer par l'autel des reins. Il vous faut passer par le serpent des reins. Vous mourrez. Vous mourrez pour de vrai. Oh Dieu, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le dire comme il faut? Vous mourrez. Vous mourrez à vous-même, littéralement. Vous mourrez aux choses du monde et vous naissez de nouveau. Amen. Le monde n'est plus. Les choses du monde sont mortes. Il n'existe pas de raccourci. Voyez, ils veulent y parvenir rapidement. Ils ne veulent pas croître. Nous croissons dans le Seigneur. Ce qu'il faut, c'est une croissance et de l'expérience. Sur la côte ouest, on dit maintenant aux gens, « Oh, nous avons le baptême immortel. Nous vous baptisons dans l'eau et vous redevenez un jeune homme, là, sur le champ, une jeune femme. » Oui, monsieur, vous continuez à... Ils ont les vêtements d'Élie. Ils sont des fils de Dieu manifestés. Ah oui, mon frère, Dieu a des fils manifestés en ce moment même. Ils sont en train d'être manifestés. On leur dit tout à ce sujet. Ce soir, vous êtes un pécheur. Demain, vous êtes des fils de Dieu manifestés. Absurdité! Où trouve-t-on cela dans la parole? Les bébés ne naissent pas hommes. Ils naissent bébés et grandissent jusqu'à devenir des hommes. Écoutez ceci. Permettez-moi simplement de reprendre ce que j'ai déjà dit là et de vous lire quelque chose dans Éphésiens au verset 11, 12. Je crois que c'est vers le verset 15, quelque part ici. Commençons au verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à homme parfait, à la mesure de sa stature, la stature parfaite de Christ. Afin que, dès lors, nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine. Écoutez, et quelle doctrine? Par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, et, attendez, quoi donc? Professant la vérité, il est la vérité dans l'amour. Écoutez, est-ce que vous écoutez? Dites Amen. Quoi donc? Nous croissions jusqu'à celui, quoi donc? Demain? Non, nous croissions jusqu'à lui. Croissions. Jusqu'à celui qui est le chef, Christ, croître en lui. Oh, il y a, je me rappelle, la première prédication que j'ai apportée. Je suis monté là et je pensais m'être vraiment bien débrouillé. Il y avait toutes ces vieilles dames assises là. Elles avaient versé quelques larmes, vous savez, et on dit, « Oh, quel merveilleux jeune homme !» Le vieux pasteur, Dr. Davis, était un ancien avocat. Je suis descendu et il a dit, « J'aimerais te voir chez moi. » J'ai dit, très bien. J'y suis allé le lendemain, vous savez, gonflé à bloc. J'ai dit, comment m'avez-vous trouvé, Dr. Davis? Il a dit, c'était la chose la plus pourrie que j'ai jamais entendue. J'ai dit, quoi? Il a dit, la pire que j'ai jamais entendue. Oh, j'ai dit, frère Davis, tout le monde pleurait. Il a dit, oui, il pleure aux funérailles, il pleure aux naissances et tout ça. Il a dit, en réalité, Billy, tu n'as rien cité de la parole de Dieu. Tu as parlé d'une mère qui est décédée ou quelque chose du genre et ça fait pleurer tout le monde. Il a dit, on ne naît pas de nouveau sur la base de ces choses et des sensations de cette terre. On naît par la parole. Il a dit, Billy, oh, il m'a vite dégonflé. Je suis content qu'il ait fait. Voyez, il ne s'agit pas de sauter en l'air, de crier à tue-tête. Il ne s'agit pas de ça. C'est la parole qui donne la vie. La parole qui est vivifiée, pas les expériences. La parole. Il a dit, je me rappelle la première affaire que j'ai plaidée, Billy. Il a dit, j'ai tapé la barre. Il a dit, j'ai dit, regardez cette pauvre femme. Oh, il a dit, regardez de quoi elle a l'air. Et son mari l'a maltraitée. Il a dit, j'ai versé quelques larmes. J'ai pris mon mouchoir et j'ai fait exactement comme les autres avocats. Il a dit, je me suis dit que j'allais afficher la même émotion que ces derniers. Il a dit, monsieur le juge, votre honneur, accordez-lui donc le divorce. « Regardez-la, elle dit que son mari lui a donné des coups sur le dos. » Il ne pouvait même pas voir cela, c'était sous ses sous-vêtements. « On lui a donné des coups sur le dos. » Il a dit, « Accordez-lui donc !» Le vieux juge était simplement assis là, il observait. Immédiatement, le vieil avocat assis de l'autre côté, lui qui avait de l'expérience, a dit, « Monsieur le juge, votre honneur, combien de temps encore va votre cour va-t-elle supporter d'entendre de telles absurdités? Ce n'était que beaucoup d'excitation. C'est comme ça que trop de gens font, trop d'excitation, sans qu'il y ait assez de paroles derrière pour confirmer cela. Croissez! Oh, il a dansé par l'esprit hier soir, frère Branham. Tout va bien pour lui. Non, à mon avis, ça ne veut pas dire que tout va bien pour lui. Non, monsieur. Il faut croître, être mis à l'épreuve, être testé, croître jusqu'à lui, avoir mûri. Il n'y a pas longtemps, je lisais quelque chose dans des récits historiques. Est-ce que je prends trop de temps? Je lisais l'histoire de l'Église. Je crois que c'est Sœur Arnold là-bas qui a dit Amen l'autre jour, que je parlais de quelque chose en rapport avec l'histoire de l'Église. Elle l'avait lu. J'ai lu qu'un soir, il y avait un jeune homme dans un monastère, au temps de Saint-Martin, qui a dit « Le Seigneur a fait de moi un vieux prophète de l'Ancien Testament. » Voyez, je suis l'un de ces vieux prophètes. Bon, là, je n'arrive pas à me rappeler le nom de l'évêque de cette petite école. Ce n'était qu'un petit groupe comme celui-ci. Je n'arrive pas à me rappeler son nom maintenant. Mais il avait été formé par Martin. Ça ne sonnait pas tout à fait juste. Alors, les autres frères n'ont simplement rien fait. Immédiatement, il s'est mis à prophétiser. Il a dit, « Cette nuit, Dieu va descendre. Il va me donner une robe blanche pour que je me tienne au milieu de vous et vous saurez que je suis l'un des prophètes de l'Ancien Testament. » Alors, cette nuit-là, à minuit, c'est vraiment arrivé. On a entendu des voix, des personnes qui se déplaçaient. Et le jeune homme a reçu une robe. On dit qu'elle était aussi blanche que possible. Il s'est présenté là et a dit, « Je vous l'avais bien dit, hein ?» Il a dit, « Maintenant, vous êtes tous sous mes ordres. Je suis le prophète de l'Ancien Testament. » Mais ce vieil évêque n'a pas vraiment cru à cela. Ce n'était pas la parole. Les prophètes ne sont pas faits, ils sont prédestinés. Et un prophète ne se comporterait pas de la sorte, pour commencer. Le fruit de cela prouvait que ce n'était pas le cas. Voyez, les fruits prouvaient qu'il n'était pas un prophète. Voyez, alors il a dit, nous passerons le reste de la nuit à jeûner et à prier, et à chanter des cantiques. Un jour ou deux sont passés. Au bout d'un moment, le vieil évêque priait. Il a dit, « Seigneur, ce jeune homme, ce vêtement, ils l'ont regardé. Ils n'avaient jamais rien connu ni vu de tel. Des écrivains sont venus le regarder et ils n'avaient jamais rien vu de tel. » Voilà. Enfin, ils connaissaient un homme qui était prophète. C'était Martin. Ils ont dit, « Très bien, tu n'as qu'une chose à faire pour nous convaincre. D'après les Écritures, tu as tort. Que dirais-tu d'aller voir Martin, te présenter devant lui et lui raconter tout ça ?» Voyez. Il a dit, « Il m'est interdit de me présenter devant Martin. Celui qui détient de l'or de bonne qualité n'a pas peur du testeur. C'est vrai, celui qui détient la vérité. Voilà pourquoi je lance un défi, que n'importe qui s'avance et me montre en quoi le baptême au nom de Jésus-Christ est faux. Montrez-moi cette naissance que vous avez, car il faut mourir si vous avez encore le monde en vous. Vous êtes encore du monde. Montrez-moi ces choses. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Amenez tout cela au testeur. Le testeur, le voici. Voyez, voyez, c'est vrai. Alors, ils ont dit, tu vas quand même y aller. Et un groupe de frères l'a soulevé. Et la robe a disparu. Voyez, les pentecôtistes goberaient ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh là là. On aurait dit que c'était la chose véritable. Mais cela ne concordait pas avec la parole. Martin raconte qu'un jour, Satan lui est apparu. Il portait une grande couronne en or, avec 3 ou 4 rangs d'étoiles, comme ça, étincelante et magnifique. Un grand gaillard, charmant, beau, bien peigné et bien coiffé. Il portait sa grande robe magnifique, et les chaussures à ses pieds étaient en or. Il s'est avancé là et a dit, « Martin, sais-tu qui je suis ?» Maintenant, les gens qui n'ont pas de vision, peut-être que vous ne comprendrez pas cela. Voyez, comment ces choses viennent à vous avec différents esprits et comme c'est trompeur. La Bible dit qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Voyez, les élus, ce sont ceux qui sont prédestinés et nés dans ce but-là. Voyez, voyez. Il s'est donc avancé vers cet élu. Il a dit, « Martin, sais-tu qui je suis ?»« Je suis Christ. » Il a dit, « Me reconnais-tu ?» Martin a hésité. Ça semblait louche. Il a attendu un instant et il a répété, il a dit, « Ne me vois-tu pas ? Je suis Christ. Me reconnais-tu ?» Il lui a dit cela à 3 ou 4 reprises. Christ a dit, ou Martin a dit, « Satan, je sais qui tu es !» Mon Seigneur n'est pas encore couronné, car ce sont ses saints qui le couronneront. Voilà la parole qui réplique. C'est comme ça que l'Église romaine s'est retrouvée avec autant de dogmes. Des mauvais esprits qui s'opposaient à la parole se sont introduits. Alors ces gens ont dû nier la parole pour admettre leurs dogmes et s'éloigner de la Bible. Tenez-vous-en à la parole. Elle est la chaîne de la vie pour aujourd'hui. Après un certain temps, des esprits s'élèveront. Elles séduiront presque tout. La Bible dit, de même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même le feront ces hommes à l'esprit réprouvé en ce qui concerne concernent la vérité, ils accompliront des miracles et opéreront toutes sortes de signes. Mais vous, tenez-vous-en à cette parole. La parole du Seigneur est venue aux prophètes. C'est eux qui l'ont apportée et nous croyons les prophètes. Remarquez, oui, il a dit, « Je sais qui tu es, Satan. » Il a dit, « Mon Seigneur n'est pas comme ça, un homme imposant. » Quand mon Seigneur est parti, il portait un vêtement rudimentaire. Il avait des marques de clous dans ses mains. Il n'était pas couronné. Ses cheveux étaient ensanglantés. Et quand il reviendra comme ça. Parce que la Bible dit qu'il reviendra de la même manière qu'il est parti. Et la chose a disparu de devant lui. Oh là là! Il se présente là et embellit tellement les choses. Oh, eux, ils ont parlé en langue. Eux, ce sont les meilleures personnes que vous ayez jamais rencontrées. N'en croyez rien. Méfiez-vous. J'espère que la parole ne vous ennuie pas. Comme ils sont vivants, les chrétiens qui sont nés croissent jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Ils naissent de nouveau. Ensuite, leur vie commence à se former comme un bébé. Elle prend forme et se met à croître. Tout à coup, les voilà arrivés à la pleine stature. Amen. Voilà, jour après jour, année après année, ils restent les mêmes. Reportez-vous maintenant à la parole. Si vous demeurez en moi, ils disent, « Je suis né de nouveau, alléluia, je me suis joint à eux, j'ai adhéré à ceci, j'y ai adhéré, je ne sais pas, l'an dernier je croyais au nom de Jésus, maintenant j'ai fait marche arrière, je crois à ceci, j'ai déjà cru qu'il fallait mener une vie sainte, mais un tel a dit des gens errants, ballottés par tout vent de doctrine, voyez, voilà. » Mais naissez de l'esprit et croissez jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Est-ce que vous voyez ça, frère Dow? Croître jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Votre vie le prouve. Par exemple, si vous êtes né prophète, vous le resterez. Si vous êtes né chrétien, vous le resterez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ceci, c'est ce qui vous fait croître dans la stature de Christ. Il n'est pas question d'un jeune avocat qui donne des coups, crie, verse des larmes, dit ceci, cela ou autre chose, et montre beaucoup d'émotions. Mais c'est quelqu'un qui a eu une croissance jusqu'à parvenir à la stature de Christ, qui a mûri à travers les années et qui a fait ses preuves, qui tient la barre, rien d'autre. Christ est le roc où nous nous tenons. Tout le reste est sable mouvant. Que les dénominations, les credos apparaissent et disparaissent. Tous les ismes, garde-moi humble, Seigneur. Que je m'en tienne strictement à la parole. Que j'avance tout droit et que je traverse le fleuve. Elle nous guidera jusqu'à la rive. La pleine stature. Maintenant, regardez. Il suffit de regarder ce qui se passe ici. Et on voit qu'on ne peut pas changer après la mort. Maintenant, observez ces gens qui arrivent là. Ils ont toutes sortes de sensations et tout, et repartent, et le lendemain, voilà, ils sont comme ça. Avez-vous vu cela? Il y en a des centaines, voyez? Et vous voyez, vous voyez ce qui arrive. Et si ces gens mouraient dans cet état-là, la mort n'y change rien. Alors, ô chrétiens, pour conclure ces paroles, permettez-moi de dire ceci. Tournons-nous vers lui et sa parole en toute sincérité. Approchez-vous humblement comme des chrétiens et naissez de nouveau de son esprit. Et quand on est né de nouveau, ce sont les fruits que l'on porte qui confirment qu'on est un chrétien. Vous saisissez, sœur Peckinpah? Ce sont les fruits que l'on porte qui indiquent qu'on est un chrétien. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est une confirmation. Vous ne savez peut-être pas votre alphabet, mais vous pouvez quand même être une dame, une chrétienne. Peut-être que le monde vous hait. Bon, si l'on vous hait à cause de quelque chose que vous avez fait, ça, c'est chose due. Mais si l'on vous hait à cause de lui, là, c'est autre chose. Vous n'êtes peut-être pas un théologien. Regardez cet aveugle qui était né aveugle. Jésus l'a guéri. Dès sa naissance, il n'avait pas de globe oculaire. Et Jésus l'a rétabli. Il l'a guéri. Et quand cet homme a recouvré la vue, les pharisiens l'ont interrogé. Ils ont dit, « Qui était-il ? » Ils ne pouvaient pas nier le fait que quelque chose s'était passé. Or cet homme n'était pas un théologien, il était incapable de débattre comme le font les prédicateurs, des petits points techniques. Il était incapable de leur expliquer tout ça. Il ne connaissait pas le Testament. Il ne savait pas comment le Messie devait naître et quelles étaient les œuvres qu'il devait accomplir. Cet homme ne savait pas tout ça. Il n'était pas un théologien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit, « Donne la louange à Dieu. Nous sommes des théologiens et nous savons qu'il est un pécheur. » Or, cet homme ne pouvait pas mettre leurs paroles en doute. Mais voici ce qu'il a dit, en d'autres termes. Si lui, il est un pécheur, et qu'il a accompli ceci, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Voyez? Il a dit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait reçu une confirmation. C'est vrai, il recevait là une confirmation. Quelque chose lui était arrivé. Son être avait été changé, des ténèbres à la lumière, de la cécité à la vue. Et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu, et qui autrefois avait l'apparence de la piété, qui reniait la parole et la puissance de ces choses, disait, les jours des miracles sont passés. Quand il est né de nouveau, il n'est peut-être pas un érudit, il n'est peut-être pas capable d'expliquer tout cela, mais il y croit. Comme si mes frères et sœurs de couleur qui sont ici veulent bien me pardonner de dire ceci. Un brave frère de couleur là-bas, dans le sud, on m'a raconté une petite histoire à son sujet. On m'a dit qu'il transportait une Bible et qu'il ne pouvait même pas lire son nom. Et on lui a dit, « Mose, pourquoi transportes-tu cette Bible ?» Il a dit, « C'est la parole de Dieu. » On lui a dit, « Eh bien, on lui a dit, y crois-tu ? » Il a dit, « Oui, monsieur, certainement, j'y crois. » Il a dit, « J'y crois de la couverture, et je crois aussi la couverture, parce qu'il y est écrit la Sainte Bible. » On lui a dit, « Comment sais-tu que c'est une Sainte Bible ?» On lui a dit, « Comment le sais-tu ? » Il a dit, « J'y crois, tout simplement. Un point, c'est tout. C'est tout ce qu'il lui fallait. Il y croyait, tout simplement. Il ne savait pas pourquoi. » Mais il y croyait. On lui a dit, « Mose, est-ce que tu serais prêt à faire tout ce que la Bible te dirait de faire ?»« Oui, monsieur. » Il a dit, « Si c'est la Bible qui le dit, je le ferai. » Voilà. On lui a dit, « Très bien, Mose. » On lui a dit, « Bon, et ce mur de pierre qui est là, si le Seigneur te disait de sauter à travers ce mur de pierre, le ferais-tu ? Comment pourrais-tu sauter à travers ce mur de pierre ?» Il a dit, « Est-ce que la Bible dit que Mose doit sauter à travers ce mur de pierre ?» Voyez. On lui a dit, « Mais si Dieu te parlait et te disait de sauter à travers le mur de pierre, il a dit, « Si c'était Dieu et qu'il me disait de sauter, je sauterais. » On lui a dit, « Comment passerais-tu à travers ce mur s'il n'y a pas de brèche dedans ?» Il a dit, « Si c'était Dieu, il y ferait une brèche quand Mose arriverait là. » Et c'est bien vrai, c'est vrai. Osez prendre la parole de Dieu, tenez-vous là et dites qu'elle est exacte. Que cette brave petite femme, nerveuse, qui est ici, elle pense qu'elle va mourir et que beaucoup de choses ne vont pas chez elle. Voyez, vous n'êtes pas en train de mourir. Vous dites, comment puis-je m'en sortir, frère Branham? Prenez simplement sa parole et appuyez-vous fermement là-dessus, une fois pour toutes. Voyez, tenez-vous fermement sur cette parole et voyez ce qui arrive. Dites au diable qu'il est un menteur. Vous êtes ménopausé depuis tant d'années. Vous avez environ 57 ans. Éloignez-vous de cette chose. C'est le diable. Prenez la parole de Dieu et dites, par ses meurtrissures, je suis guéri. Et voyez ce qui se produit. Alors, vous arrêterez de penser que vous avez des crises cardiaques et tout ça. Vous n'avez pas de crises cardiaques et tout le reste. C'est un mensonge. Vous n'en avez pas. Croyez simplement la parole de Dieu. C'est vrai. Quand vous êtes né de nouveau, Dieu confirme ce que vous êtes. C'est comme ça que Dieu confirme toute sa nature. Comment ? À leurs fruits. C'est comme ça qu'il confirme son ministère. C'est vrai. Tous ses serviteurs sont confirmés de la même manière qu'il confirme la nature. Comment reconnaît-on un péché ? Parce qu'il produit des pêches. Comment reconnaît-on un pommier ? Il porte des pommes. Comment reconnaît-on un chrétien ? Il porte les signes d'un chrétien. Il produit la vie chrétienne. Comment reconnaît-on un docteur? La parole vient de lui. Comment reconnaît-on un prophète? La parole vient à travers lui. rend témoignage. C'est une confirmation. La preuve se fait d'elle-même. Comment devient-on cela? On le devient en mourant. C'est vrai. Quand nous mourons et que nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ, cela nous met en harmonie avec notre appel. Et nous ne nous écartons pas de notre appel. Les fruits de l'Esprit nous accompagnent. Quand nous sommes ses serviteurs, quand nous sommes nés de nouveau, les fruits de la vie de Christ nous accompagnent. C'est vrai. Comment reconnaît-on un péché? Il a des pêches. Comment reconnaît-on un chrétien? Il agit comme Christ, il marche comme Christ, il parle comme Christ, il vit comme Christ, au-dessus du péché, victorieux. Que fait-il? Dit-il, vous avez vu ce que j'ai fait? Christ n'a pas fait cela. Il a donné toute la louange au Père. C'est vrai, c'est à cela qu'on le reconnaît, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Que faut-il? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu. Bon, là, ce n'est pas mon message de nouvel an. Il est midi et demi, ou plutôt 13h20. Mais je vous donne ce conseil à vous, chrétiens, vous qui aimez Dieu. Quand vous vous approchez de l'autel d'airain, du jugement de Dieu, et que vous voulez naître de nouveau, placez-vous là-dessus. Ne vous attendez pas à vous relever. Vous allez mourir. Votre fin est arrivée. Voilà tout. Si vous ne le faites pas, si vous vous sentez incapable de le faire, n'essayez pas. Ça ne marchera pas. Il faut une profonde sincérité. Il me reste encore une dizaine de pages pour cette leçon. Peut-être plus. Des passages de l'Écriture. Mais je m'arrête ici. Placez-vous sur l'autel d'airain de Dieu, du jugement de Dieu, et devenez mort au monde autant que Christ l'était. Voyez, venez en étant tout aussi mort que le serpent quand il avait été jugé dans le jardin d'Éden et qui était représenté sous la forme d'un serpent d'airain. Il n'y avait pas la moindre vie là-dedans. Toute vie en lui avait disparu. Christ était sans vie. On l'a descendu de la croix et on l'a enseveli dans la tombe. Il était mort. Et ensuite, il est ressuscité pour notre justification. Et nous mourons sur l'autel avec notre agneau. Et nous sommes ressuscités pour, dans sa justification. Comment le savons-nous? Parce que sa vie, celle qu'il a ressuscité de cet état de mort, cette même vie nous ressuscite de notre état de mort dans ce monde, pour faire de nous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Après quoi, nous sommes scellés par le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Jusqu'au jour de notre rédemption. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut comprendre le royaume de Dieu. N'essayez pas de le comprendre. Vous n'y arriverez jamais. Jésus a dit que vous n'y arriveriez pas. Acceptez-le simplement. Acceptez-le en vous basant sur sa parole. Ne vous avancez pas aveuglément en disant, « Oh Seigneur, donne-moi une sensation. » Ne dites pas, « Seigneur, je te le dis. » Non, dites simplement, « Seigneur, fais-moi mourir, ôte de moi tout ce qui est du monde. J'aime encore les choses du monde. Je ne parle pas de la création, des couchers de soleil et de la beauté et tout ça. Je ne fais pas allusion à cela. Je fais allusion à la convoitise, la souillure, l'ordre du monde, toutes ces choses du monde. Là, elles meurent. Elles meurent automatiquement. Et vous, elles n'ont plus aucune emprise sur vous. Pour vous, elles ont maintenant une mauvaise odeur. Je ne vois pas comment les gens arrivent à vivre dans ces choses. Vous vous écriez. Plus vous voyez ces choses, plus elles vous dégoûtent. Oui, monsieur, vous ne pouvez faire aucun compromis là-dessus. Il n'y a pas de place pour les compromis. Il n'y a aucune place pour vous là-bas, où le monde se trouve. Vous êtes mort à ces choses. Et à partir du moment où vous êtes mort à ce qui est du monde, comment pouvez-vous encore vous associer aux choses du monde? Vous ne pouvez pas le faire. Alors, ne le faites pas. Mourez aux choses du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez des chrétiens nés de nouveau. Naissez de nouveau. Alors, vous n'aurez pas besoin de dire, « La chose la plus difficile pour moi, vous les femmes, c'est de me laisser pousser les cheveux. La chose la plus difficile pour moi, c'est d'abandonner mon tempérament colérique. Vous, les hommes, mon gars, je m'en vais dire deux mots à ma femme. Mon gars, je vais la prendre, la secouer et lui dire, « Je sais que je suis un chrétien, que je ne devrais pas faire ceci, mais assieds-toi et tais-toi. » Ah non, ne faites pas cela. Voyez, vous aimeriez voir ce moment où vous pourrez passer votre bras autour de ses épaules et lui dire, « Chérie, ce n'est pas convenable pour une chrétienne. » C'est comme ça que vous voulez être, n'est-ce pas? Vous pouvez être comme ça, voyez. Et quand un homme vous frappe sur un côté du visage, vous n'avez pas besoin de le taillader avec un canif, voyez. Si un homme vous frappe sur un côté du visage, dites, « Mon frère, pour quelle raison avez-vous fait cela ?» Voyez, voilà. C'est cela, le christianisme. Quand quelqu'un dit du mal à votre sujet, au lieu de dramatiser l'affaire, retirez-vous quelque part et dites, « Père Céleste, cet homme est un mortel. Je te prie d'enlever cet esprit qui est en lui. Ne le laisse pas faire ça. Je prie que tu sauves sa vie. » Ne dites pas, « Seigneur, je sais que je ne devrais pas dire ça. » Eh bien, peut-être que vous ne le dites pas de vos lèvres, mais c'est ce que vous pensez dans votre cœur, voyez. C'est ce qu'il y a dans votre cœur qui compte. Voyez, quand vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous aimez vraiment tout le monde. Bon, vous n'aimez pas leur mode de vie et ce genre de choses. Vous ne voulez pas avoir part à tout ça. Non, monsieur, tenez-vous loin des choses du monde et restez sans tache. Et le seul moyen pour vous de le faire, c'est que cela vienne à partir de l'intérieur. Comme la colombe qui lisse son plumage. Voyez-vous, elle n'a pas besoin de le lisser, de dire, « Bon, aujourd'hui, je dois nettoyer tout ça », et ainsi de suite. Non, elle a de l'huile à l'intérieur d'elle, parce qu'elle est une colombe. Ça la garde propre, tout simplement. Voyez, c'est vrai. Ne voulez-vous pas faire cela? Ne voulez-vous pas le recevoir comme cela? C'est ce que je veux vous persuader de faire en cette veille du Nouvel An. Je veux vous persuader, vous, ce petit tabernacle, comme je vous aime, comme j'aime ce petit groupe de gens, comme j'aimerais entrer ici un beau jour, traverser ce bâtiment et simplement regarder. Savez-vous ce que j'ai toujours désiré ardemment voir? Une église tellement remplie de l'esprit que le péché ne pourrait même pas l'approcher. Dès que l'un des membres ferait quelque chose de mal, l'esprit le dénoncerait sur le champ. Il aurait peur de se joindre aux chrétiens avant d'avoir confessé cela et d'avoir rectifié la chose, parce qu'il serait aussitôt dénoncé, là, à la réunion, quand on se réunirait. Vous voyez, là, ce serait formidable, ça, n'est-ce pas? Ensuite, quelqu'un d'impur entrerait ici et s'assiérait au milieu de vous, et tout à coup, le Saint-Esprit parlerait de manière à révéler les secrets de son cœur. Voyez, il lui signalerait cela. Maintenant, si ça marche pour l'un, ça marchera pour l'autre. Voyez-vous? Voyez? Et tout le monde serait en prière, vous tous, faisant bloc ensemble, formant une personne, une seule personne, car nous sommes tous membres de ce corps. Nous continuons toujours à avancer. Nous sommes tous nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, remplis du même esprit, baptisés dans le même corps. Ce serait merveilleux, ça, n'est-ce pas? Et nous pouvons avoir cela. Dieu nous l'a promis. Mais premièrement, il faut la mort, l'ensevelissement et la résurrection avec lui. Courbons maintenant la tête pour prier. Et il y a aussi quelques mouchoirs posés ici. Dieu saint, nous sommes conscients, Seigneur, que du caractère sacré lié au fait que nous nous tenons ce lieu. Nous sommes conscients que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes là, nous nous associons au corps de Christ, qui est la maison de Dieu. Les membres du corps sont rassemblés. L'un vient d'un endroit et l'autre d'ailleurs. Ils se rassemblent. Et aujourd'hui, cette leçon d'école du dimanche a été longue, elle s'est prolongée. Mais Père, je crois que c'est toi qui as établi que cela devait être ainsi, pour que nous puissions comprendre ce que la naissance et la résurrection signifient, ce que naître de nouveau signifie. Il faut commencer par le commencement. Nous devons mourir afin de naître de nouveau. Tu ne changes jamais tes lois. La loi de la nature pourvoit toujours. La loi de la nature, c'est que toute semence doit d'abord mourir afin de renaître. Et nous savons que nous aussi, il nous faut mourir afin de naître de nouveau. Et tant de gens, Seigneur, je te prie aujourd'hui de nous pardonner. Tant de gens se sont fiés à certaines expériences qu'ils ont eues dans le passé pour prétendre être nés de nouveau. Mais les fruits de leur vie montrent qu'ils proviennent du mauvais arbre. C'est pour cette raison, Père, que ce matin, je m'étais dit que si Frère Neville me demander d'apporter un message, j'enseignerai simplement l'école du dimanche. Je l'ai donc fait avec amour et de tout mon cœur, pour que les gens puissent savoir qu'ils ne doivent pas se reposer sur une petite expérience qu'ils ont vécue, mais qu'ils doivent se reposer strictement sur leur vie de chaque jour, la manière dont ils vivent lorsqu'ils sont à l'église, et la manière dont ils vivent quand la grande tension provient de l'extérieur. Se réfugient-ils à la croix pour demander de l'aide quand les problèmes surviennent, ou marchent-ils selon leur propre esprit et leurs propres pensées? Quand on les injurie, répondent-ils par l'injure? Voilà la question, Père. Alors que nous voyons qu'aucun de nous ne peut sauver l'autre, que c'est totalement impossible, Dieu alors pourvu d'un moyen approprié, d'un sacrifice entièrement suffisant, et il est le seul moyen par lequel nous puissions venir, non pas par une église, un credo, une dénomination, une sensation, mais par le moyen de Christ. Comme le premier homme, le juste, est mort, il est mort sur l'autel avec son agneau. Et même jusqu'à présent, tout autre homme juste doit mourir sur l'autel d'airain de Dieu, avec son agneau, Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes morts avec lui et sommes ressuscités dans une nouvelle vie. Accorde-le, Seigneur, afin qu'aucun cœur ici ne manque cela. Puissions-nous réfléchir à cela aujourd'hui, Seigneur, alors que nous reviendrons de nouveau ici cet après-midi à 19h30 pour commencer une série de réunions en prêchant ce soir. Je te prie, Seigneur, de bénir chacun de tes serviteurs ce soir en leur donnant de puissants messages. Accorde-le. Puissent nos âmes être remplies, ces gens qui ont pris la route de si loin pour venir ici. Puissent-ils être tellement remplis de l'Évangile, de la puissance de Dieu pendant cette veille du Nouvel An, qu'ils repartiront d'ici heureux et dans la joie. Accorde-le, Seigneur, en leur donnant de la nourriture spirituelle pour l'année qui vient. Accorde-le. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et tu as dit, si vous, de tout votre cœur, vous ne pardonnez pas à chacun ses offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ainsi donc, Seigneur, nous pardonnons à tous. Nous plaçons nos âmes sur l'autel par la foi ce matin. Consume et ôte de nous toute vie du monde, Seigneur. Puisse la fumée s'élever de notre sacrifice, Seigneur, et être d'une odeur agréable à tes narines. Accorde-le, Seigneur, car nous n'y déposons pas un agneau consumé, mais nous nous y déposons nous-mêmes, en tant que pécheurs, pour être consumés, comme pécheurs, être changés en agneau par une nouvelle naissance. Accorde-le, Seigneur. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, le mal de la maladie, le mal de la dépression. Guéris tous ceux qui sont dans le bâtiment ce matin. Que chaque malade soit guéri aujourd'hui, Seigneur. Je prononce ces paroles au nom du Seigneur Jésus. Les montagnes qui sont là devant les gens, puissent-elles être toutes ôtées aujourd'hui? Que ce soit la maladie, la convoitise, les passions, les choses du monde, que tout cela soit écarté du chemin et que la parole de Dieu entre et soit manifestée dans leur vie. Délivre-nous du mal, car c'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Maintenant, serrez-vous la main les uns les autres. Je l'aime. Je... Retournez-vous simplement et dites, bonjour mon frère, bonjour. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Continuez à jouer. Je tiens à remercier chacun de vous pour votre gentillesse au cours de l'an dernier. Je vais probablement apporter mon message ce soir, si le Seigneur le veut, à 19h30. Je tiens à remercier Charlie et Nelly, ainsi que Rodney et sa femme, pour leur gentillesse pendant que j'étais là-bas durant la saison de la chasse. Ils m'ont traité comme leur père ou leur frère. Et à vous tous qui avez été si gentils avec moi, merci. Frères et sœurs Down et frère Wright, frère Ben aussi, et un grand nombre de personnes, vous tous, frère Palmer et, vous savez, vous tous qui venez de la Géorgie, de partout, merci. Au fait, le père de Margie, ils ont appelé hier et ont dit qu'il était malade. Est-ce que Margie et Rodney sont ici? Non? Comment se porte ce brave vieillard? Nous allons, doucement s'il vous plaît, prier. Père Céleste, il y a quelques semaines, j'étais assis sur un petit perron de campagne, loin là-bas, près d'une route dans le Kentucky. Un vieux papa était assis là. Il portait une salopette et une chemise bleue délavée, et il tremblotait. Je l'ai pris par la main et j'ai vu que sa fin approchait. Une maman âgée m'a invité à manger quelques petits pains et de la sauce. Seigneur, il ne faisait là que témoigner du respect envers ta parole. Et voilà qu'il n'est presque plus. Il est en train de nous quitter. Ne le laisse pas mourir, pécheur, Seigneur. Peut-être que c'était notre, la faute de ton serviteur, Seigneur. Ce pauvre vieillard n'a connu rien d'autre que de labourer des mottes de terre et de subvenir aux besoins de ses enfants. Mais j'ai vu en lui un esprit bon et doux. Ne le laisse pas mourir, pécheur. Sa fille est l'une de nous, Seigneur. Et cette brave Margie, ses petites épaules endolories, combien elle a pris soin de moi et s'est démenée pour me faire un lit où dormir là-bas et un petit déjeuner à table. Elle et Nelly, Charlie et tous les autres, maman Cox. Et elle pleurait, ont-ils dit au téléphone. Son papa est en train de partir. C'est son papa. Seigneur, va vers cette tente à oxygène en ce moment même. Ne frappe pas à la porte de cette tente-là, mais à la porte de sa tente à lui, à la porte de son cœur. Peut-être que certains d'entre nous n'avons pas rempli notre devoir d'aller vers lui, Seigneur. Peut-être que certains de tes autres serviteurs, alors qu'il était jeune et que son esprit était encore vif, c'est peut-être de notre faute, Seigneur. Nous n'avons peut-être pas cherché à le convaincre. Dans ce cas, pardonne-nous, Seigneur, et accepte-le dans ton royaume. Accorde-le, Père. Nous te le confions maintenant. Et si c'est possible, ou que cela fasse partie de ton plan merveilleux, si tu veux bien le rétablir, Seigneur, peut-être que certains d'entre nous auront encore la possibilité de lui parler. Toutefois, c'est pour son âme que nous plaidons, Seigneur, car semble-t-il, elle entreprendra très bientôt son voyage. Elle naviguera là-bas vers l'inconnu. Oh, sans pilote, Il n'y aura personne pour le conduire à travers le brouillard et la brume là-bas. Il s'égarera, Seigneur. Puisse le pilote qui connaît le chemin venir à lui ce matin afin d'ancrer son petit bateau au flanc du vieux bateau de Sion. Quand il entreprendra son voyage, il aura alors l'assurance qu'il débarquera en toute sécurité. Accorde-le, Père. Nous te le confions maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Levons les mains. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. En apportant le message de ce soir, j'essaierai d'être un peu plus rapide que ce matin. Maintenant, partez discrètement. Je voudrais bien pouvoir vous emmener tous chez moi pour vous offrir à tous un bon dîner. Je le ferais certainement si je le pouvais. Mais j'espère que le Seigneur vous donnera un vrai repas, spirituellement parlant, dans sa bonté et sa miséricorde, si bien que vous saisissiez cela et que vous croissiez pour parvenir à la pleine stature de celui que vous aimez, votre Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, alors que nous quittons le bâtiment et que nous nous levons pour terminer la réunion par la prière, nous voulons chanter notre chant et assurez-vous d'y obéir. Revêt-toi du nom de Jésus. Pardon ? Alors tu pourras terminer la réunion. Maintenant, nous allons faire une annonce dans un instant. Nous procéderons à l'annonce aussitôt que nous aurons chanté notre chant. Très bien. Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Revêt-toi du nom de Jésus comme d'un bouclier puissant. Écoutez ceci maintenant. Et quand les tentations surviennent, qu'est-ce que vous faites? Murmure simplement ce saint nom en priant. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Maintenant, souvenez-vous, je crois que Jésus-Christ dit ceci à tout être humain, et c'est sa première doctrine. Si un homme ne naît d'eau, ça, c'est la parole, le lavage d'eau par la parole, et d'esprit, ce qui est le Saint-Esprit qui confirme la parole, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Le croyez-vous? Voyez, d'eau, le lavage d'eau par la parole est la vérité, il est la vérité. L'eau est l'esprit, qui accompagne la parole afin de confirmer la parole et qui fait que Dieu vit en moi. Voyez, nous ne pouvons pas comprendre le royaume des cieux tant que cela ne s'est pas produit. Puis, quand cela commence à se produire, que nous voyons la parole en nous, que nous sommes nés de la parole et de l'esprit, et que celui-ci se manifeste. Il ne me conduit pas à m'éloigner de la parole. L'esprit me conduit vers la parole, et la parole vit en moi. Manifestant Dieu dans votre vie, vous ne comprendrez jamais le royaume de Dieu et ne pourrez point y entrer. Que Dieu vous bénisse, frère Neville.